Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 16 personnes en lien avec le périscolaire parisien, toujours en garde à vue ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs, interpellés hier pour des faits de nature et de gravité différentes. Un an après la promulgation de la loi trafic, le premier bilan des expulsions locatives des HLM pour les familles de dealers au nombre de 29, c'est une information RMC. Et les annonces de Sébastien Lecornu, grande conférence de presse à 17h sur l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient, avec de nouvelles aides à la clé.
Vaste coup de filet dans le périscolaire parisien.
16 personnes sont toujours entendues ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs. Elles sont en lien avec le périscolaire de 3 écoles parisiennes interpellées hier matin dans le cadre de plusieurs enquêtes distinctes. Bérangère Bocquillon, plusieurs enfants des élèves maternels de Saint-Dominique, de Rapp et de La Rochefoucauld ont décrit des agressions, des violences et des viols perpétrés par des animateurs de Saint-Dominique, épicentre du scandale.
Une trentaine de plaintes pour violences physiques, exhibitions sexuelles, agressions ou viols. Les 16 personnes qui sont entendues depuis hier ont entre 18 et 68 ans. Trois d'entre elles sont des responsables du périscolaire, trois autres des ASEM, ces agents en classe avec les enfants, et les 10 autres sont des animateurs. Marie a porté plainte pour le viol de sa fille contre un animateur de Saint-Dominique. Elle ne s'attendait pas à 16 gardes à vue.
Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes impliquées au sein de l'école.
Et elle attendait désespérément ces interpellations.
Un grand soulagement, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup. Ça fait presque 4 mois maintenant qu'on a déposé plainte et ça a été 4 longs mois à savoir que les agresseurs, les violeurs de notre fille étaient toujours en liberté, voire potentiellement qu'ils travaillaient toujours auprès d'enfants.
Les familles attendent également que la lumière soit faite sur toute la chaîne des responsables du périscolaire, l'administration et les élus de la ville de Paris.
Et ne manquez pas, juste après le journal de Thibaut Texer, la cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Évidemment qu'elle estime que c'est une étape importante, ces arrestations, mais elle considère, comme de très nombreux parents, qu'il faut immédiatement mettre en place des mesures d'urgence et que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui dans les écoles parisiennes.
Un chiffre, 29, c'est le nombre de dealers ou familles de dealers expulsés de leur logement en France. C'est une information que vous révèle RMC, qui a pu obtenir le premier bilan. Un an après la promulgation de la loi narcotrafic, l'une des dispositions de cette loi permet au préfet d'enjoindre les bailleurs à expulser l'occupant d'un logement s'il vend de la drogue, dégrade ou squatte un hall d'immeuble. 29 expulsions, Maxime Clieruza du service police-justice RMC, c'est un peu moins de 10% du nombre d'injonctions adressées aux bailleurs.
Oui, au total, 338 injonctions ont été adressées aux bailleurs depuis la mi-juin 2025, dont une majorité n'est pas encore passée entre les mains d'un juge. Parmi les 29 expulsions, celle d'une famille résidant à Gonesse dans le Val d'Oise. Elle a été expulsée il y a quelques jours de son logement qui servait d'appartement nourrice. De la drogue, des armes et de l'argent liquide étaient stockés sur les lieux. La préfecture indique qu'elle va maintenant attribuer le logement à une autre famille. De son côté, l'entourage du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se félicite de ces 29 logements libérés et parle d'un effet concret de cette loi. Selon nos informations, plusieurs dizaines d'autres procédures sont en cours et devraient conduire dans les prochaines semaines à de nouvelles expulsions de logements.
La pression s'accentue sur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. L'affaire prend une tournure politique et de nombreux élus emboîtent le pas à Benoît Payan. RMC vous le révélait hier, le maire de Marseille demande au chanteur de renoncer à son concert prévu en octobre prochain dans sa ville.
Vous écoutez RMC, il est 7h04.
506 euros, c'est ce qu'il manque aux Français pour vivre convenablement. Selon un sondage Elab pour BFM TV, ils sont 8 sur 10 à déclarer se serrer la ceinture, conséquence de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des coûts du carburant. Une crise qui va durer, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Il va dévoiler cet après-midi à 17h le nouveau paquet d'aides du gouvernement pour le mois de juin, à destination des secteurs qui n'en ont pas bénéficié à ce jour. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Le Premier ministre avait promis de changer d'échelle. Sébastien, à quoi faut-il s'attendre?
À des aides qui vont sans doute très fortement ressembler aux précédentes en réalité, avec l'idée d'élargir le nombre de bénéficiaires, mais tout en gardant le pied sur le frein. Ne vous attendez donc pas à une baisse généralisée des prix à la pompe, pas de baisse de taxes par exemple, mais à des mesures de soutien qui vont rester très ciblées, temporaires et qui continueront de viser les Français qui travaillent, avec l'idée, explique l'entourage du Premier ministre, d'étendre le dispositif à davantage de gros rouleurs, les soignants par exemple. On n'abandonnera personne, a promis le Premier ministre. L'idée d'inciter les entreprises à prendre leur part, à verser des primes par exemple, a aussi été étudiée. Et puis il y a les aides ciblées sur les secteurs les plus exposés. Ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui sont aidés continuent continueront de l'être au mois de juin. Les agriculteurs, les pêcheurs, le BTP par exemple, et d'autres vont devenir éligibles. On pense par exemple à l'industrie du plastique ou la chimie, touchée par l'inflation des matières premières. En réalité, il n'est pas question que de carburant. L'impact de cette crise sur l'économie est bien plus large et va exiger des décisions difficiles dans les mois qui viennent. C'est aussi le message que veut faire passer le Premier ministre cet après-midi.
Et n'hésitez pas, appelez-nous au 3216. Dites-nous si vous en attendez encore quelque chose de ces annonces, de ces aides que promet le Premier ministre. Vous êtes peut-être infirmier, infirmière, aide-soignante, aide à domicile ou gros rouleur. Est-ce que vos habitudes ont changé et de quoi vous auriez besoin? Faites aussi vos demandes au 3216.
Il y a tout de même des bonnes nouvelles. La France reste attractive. Elle continue d'attirer les investisseurs étrangers, en tête pour la 7e année de rang des pays européens. C'est ce que nous dit ce matin le baromètre EY, et même si, Victor Jeanin, le contexte international ne pousse pas forcément à l'optimisme.
Dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'intelligence artificielle notamment, la France séduit plus les investisseurs étrangers que ses voisins européens, grâce à la taille de son marché, le deuxième en Europe, ses centres de recherche, ses autoroutes ou encore son électricité nucléaire. Et il faut s'en réjouir, plaide l'auteur de l'étude, Marc Lhermitte.
C'est une bonne nouvelle, c'est une victoire de prestige. Et je peux vous dire qu'à Londres, à Berlin, on nous envie cette position. Arriver à attirer 852 investissements dans une année, c'est plus de 2 par jour. C'est une belle performance.
Reste que la France, comme ses voisins, subit le ralentissement de l'économie mondiale et la frilosité des grandes entreprises dans ce contexte incertain. Des entreprises qui préfèrent aussi temporiser à l'approche de la présidentielle, explique l'économiste.
Elles peuvent avoir une certaine retenue pour se dire « moi j'ai besoin d'un horizon de long terme, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans les... » 5 ans qui viennent et pas dans les 5 mois qui viennent.
Résultat, seulement 55% des entreprises étrangères interrogées comptent investir en France dans les 12 prochains mois. C'est 18 points de moins qu'il y a 2 ans.
La guerre au Moyen-Orient, Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid, toujours menaçant à l'encontre de Téhéran qui a reçu une nouvelle proposition américaine. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, tout peut aller très vite, dit le président américain, évoquant des pourparlers ne tenant qu'à un fil. Conséquence de cette guerre, la délocalisation de la Coupe du Monde e-sport. L'e-sport World Cup, organisé et financé par l'Arabie Saoudite depuis sa création en 2024, elle va finalement se tenir en France. Cet été, on parle là, Martin Bourdin, d'un événement XXL, rendez-vous incontournable pour les meilleurs gamers du monde.
Plus de 2000 joueurs venus du monde entier qui vont s'affronter tout l'été sur 24 jeux vidéo différents pour remporter des sommes records, près de 65 millions d'euros de récompenses cumulées distribuées aux vainqueurs. Et ce spectacle, il est scruté de très près partout sur la planète. 750 millions de personnes avaient suivi l'an dernier cette Coupe du Monde des clubs diffusée dans 140 pays. L'eSport World Cup, c'est une sorte de Jeux Olympiques du jeu vidéo professionnel aux yeux du sociologue de l'eSport, Nicolas Besson.
C'est vraiment un événement très mondialisé. Il y a à la fois des jeux très populaires en Europe, en Occident, comme Counter-Strike ou League of Legends, mais aussi des jeux qui sont très populaires en Asie. Il va y avoir des allées et venues de fans et de touristes. Paris étant une place assez centrale dans l'eSport, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a des gens qui, parce que ça va se passer à Paris, risquent de faire le déplacement pour venir à Paris.
Une compétition qu'Emmanuel Macron tenait à organiser, lui qui veut faire de la France une place forte de l'e-sport. Il a même reçu le patron de la compétition à l'Elysée avant-hier. On ne sait pas encore dans quel lieu se dérouleront précisément les compétitions, mais il faut un espace où on peut accueillir plusieurs milliers de personnes, glisse un membre de l'organisation.
Le sport sur un terrain de foot, victoire 3-0 d'Aston Villa en finale de Ligue Europa face à Fribourg, 5e titre dans la compétition. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal, les deux clubs se retrouveront en Ligue des Champions le 30 mai. Ousmane Dembélé assure qu'il en sera blessé face au PFC. L'attaquant est confiant, il le dit dans un entretien retrouvé sur RMC. Ce soir, le Ballon d'Or répond aux questions de Jérôme Rotten et Benoît Boutron dans Rotten sans flamme des 18h.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Coup de filet dans le périscolaire parisien. 16 personnes en garde à vue ce matin. Des agents soupçonnés de violences sexuelles et de gestes violents contre des enfants. Bonjour Elisabeth Gutmann. Vous êtes l'une des mamans cofondatrices du collectif SOS Périscolaire. Vous vous félicitez que la justice continue d'avancer dans ce dossier évidemment. Mais pour vous, il y a des mesures d'urgence à prendre tout de suite pour protéger nos enfants. Et ce n'est toujours pas le cas, vous nous le dites dans un instant. 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC et RMC Story. Une centaine d'écoles sous enquête, rien qu'à Paris. 78 agents de la ville suspendus depuis le début de l'année. Et on l'a appris hier, 16 personnes en garde à vue. Ça bouge enfin dans les affaires de violence dans le périscolaire. Bonjour Elisabeth Gutmann.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice, une des mamans cofondatrices du collectif SOS Périscolaire. Les 16 personnes là dont on parle, qui sont interrogées en ce moment même par la police, exerçaient toutes dans l'école publique Saint-Dominique à Paris et l'organisation des trois écoles qui sont regroupées autour de cette école Saint-Dominique à Paris. On parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle de violence physique contre les enfants. 16 personnes d'un coup, comment vous réagissez d'abord? Évidemment qu'on se dit, mais 16 personnes pour une même école, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un réseau, c'est-à-dire que c'est une organisation, c'est-à-dire que c'est de la cooptation. Comment vous vivez ça?
Alors ça veut dire que c'est un dysfonctionnement majeur et qui perdurait depuis longtemps et qui n'avait pas été arrêté. Donc pour nous, cette arrestation, ces arrestations en masse, c'est aussi enfin un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, d'écoles en ce moment qui attendent qu'il y ait du mouvement, beaucoup de, d'animateurs qui ont été mis en cause dans des faits d'agression sexuelle ou pour des faits de violence physique grave ou psychologique grave et qui se baladent librement à Paris ou près de chez eux. Donc pour nous, c'est quand même un geste très fort, un événement, on va dire, dans cette affaire qui est emblématique. Hein. Avant elle, il y avait eu l'affaire de l'école Paul Dubois, qui était déjà une très grosse affaire et qui malheureusement n'avance pas du tout d'un point de vue judiciaire. Et là, il y a l'affaire de cette école, l'école Saint-Dominique, qui est tentaculaire également.
Tentaculaire, oui. Dites-vous, et sur plusieurs années, vous êtes évidemment de très très nombreux parents, désormais très solidaires aussi les uns des autres, au sein d'un certain nombre de collectifs. Vous estimez donc que c'est une étape, mais en même temps, dans le quotidien des enfants parisiens, dans l'organisation, y compris dans le recrutement, les mesures d'urgence que vous êtes nombreux à réclamer ne sont toujours pas mises en place. De quoi vous parlez ?
Non, effectivement, nous, ça fait depuis 2021. Notre collectif, il a été créé en 2021 et depuis 2021, on demande des mesures d'urgence. On avait déjà pris l'ampleur de ce phénomène de violence et on le portait déjà à la mairie de Paris, hein, auprès de Patrick Bloch, qui était le premier adjoint de Madame Hidalgo. Et donc, ces mesures d'urgence, elles n'ont pour l'instant pas été mises en place ou très peu.
C'est quoi ces mesures d'urgence ?
Alors, les mesures d'urgence, il y a déjà tout simplement les parents, nous puissions savoir qui s'occupe de notre enfant. C'est quand même pas...
Ça paraît délirant de penser que c'est toujours pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas. On demande des trombinoscopes, donc avec les photos des animateurs, les noms des animateurs, de manière à pouvoir les identifier et que...
En parler avec vos enfants.
En parler avec nos enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a un animateur qui est mis en cause par un enfant, pour des faits de violence, l'enfant n'est pas toujours capable de donner son prénom, soit parce que l'animateur est de passage, soit tout simplement parce que l'enfant à 3 ans et demi, à 3 ans, n'est pas capable de se souvenir de son prénom, et c'est pas grave, c'est ok. Sauf qu'en fait, il n'est pas non plus en capacité de montrer son visage, puisqu'il n'y a pas de trombinoscope avec des photos. Ce qui a été voté pourtant au Conseil de Paris, déjà il y a plusieurs années.
Mais alors, qu'est-ce qui bloque ?
Alors aujourd'hui, c'est des avatars à la place des photos, donc c'est Pocahontas ou Mickey. Hein, pour
c'est ça qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous donne un trombinoscope avec des
avatars.
Avec des avatars.
Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est impossible, bien sûr, pour un enfant d'identifier.
Oui, non, il va pas vous dire c'est Pocahontas.
Parce que les animateurs ne souhaitent pas qu'il y ait leurs photos pour des histoires de droit à l'image et aussi ils se sentent en danger du fait de mettre leurs photos sur un ordinateur.
Vous n'avez toujours pas aussi de réunion avec ces gens qui sont quand même en contact toute la journée avec vos enfants. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'au début de l'année, dans toutes les écoles, il y a une réunion avec les maîtresses, les maîtres. Rien avec tout le reste du personnel ou les agents du périscolaire.
Non, c'est vraiment au bon vouloir de là ou du responsable d'animation. Il y a dans quelques écoles des réunions de rentrée, mais c'est vraiment anecdotique. Et effectivement, c'est la deuxième demande qui paraît évidente, comme vous dites, qu'on porte auprès de la mairie de Paris. C'est d'obliger qu'il y ait obligatoirement en début d'année
une
rencontre avec les équipes, qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire avec les enfants et qu'ils se présentent tout simplement.
Vous venez de dire, Elisabeth Gutmann, dans le courant de votre phrase à propos du fait que les enfants n'étaient pas toujours en mesure de parler de ceux qui s'occupent d'eux, vous avez dit parfois aussi parce qu'ils sont de passage. Est-ce que ça c'est pas aussi le cœur du problème? Vous êtes nombreux à dire que vous considérez que 2013 a été un basculement. 2013, on le rappelle, c'est le moment où il y a eu la réforme des rythmes scolaires qui a créé aussi ce système d'un périscolaire avec des ateliers à droite à gauche, une heure par-ci, une heure par-là, et donc des recrutements sur des tout petits bouts de mi-temps avec des agents, effectivement, de passage, avec des gens qui sont là une heure, deux heures dans un établissement, ce qui a favorisé aussi la grande difficulté à ce qu'il y ait un suivi, une responsabilisation davantage. Et ça, c'est toujours pas vraiment remis en cause.
Alors, ça va être mis en cause là, justement, au cours de la Convention citoyenne. Ils sont en train d'en débattre. Donc, on verra là, mi-juin, fin juin, qu'est-ce qui est décidé. Effectivement, ce moment qui devait être un moment pour le bien-être des enfants, de repenser ces rythmes scolaires en disant, mais oui, s'ils ont moins d'heures de cours, ils vont aller mieux. En réalité, ces heures de cours, elles sont remplacées par du périscolaire. Et on voit que le périscolaire n'étant pas de qualité, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a plein de raisons, hein, qui font, il y a plein d'agents qui sont de bonne volonté, qui sont là pour le bien-être, en tout cas, qui ont envie de s'occuper des enfants et qui arrivent vraiment avec des bonnes intentions, mais en fait, ça leur donne pas les moyens.
Ça a créé des failles. Vous avez parlé aussi de la question des moyens. Emmanuel Grégoire a annoncé un grand plan, effectivement, pour renforcer le périscolaire. Outre la question de la Convention citoyenne, il promet 20 millions d'euros, notamment pour mieux former ses agents. Est-ce que vous estimez que c'est ce que vous attendiez?
Alors, une meilleure formation, oui, c'est ce qu'on attend. Néanmoins, c'est pour l'instant pas à la hauteur de ce qu'on attend. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est 2 jours de formation pour les nouveaux vacataires. Ceux qui sont en place, ils sont pas formés. 2 jours de formation, ça ne nous suffit toujours pas. C'est mieux que rien, mais en fait, c'est quand même proche de rien. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais diplômes métiers. Maintenant, comme il peut y avoir dans les crèches, par exemple, puisque les enfants, ils ont 2 ans et demi pour les plus petits qui rentrent à l'école. Donc c'est une évidence.
C'est les tout petits qui ont besoin d'aide.
Des besoins psycho-émotionnels, bien sûr, il faut. Et on se rend compte que du coup, ça repose uniquement sur le bon sens de la personne qui va s'occuper d'eux, sauf qu'on n'a pas tous le même bon sens, on n'a pas tous eu la même enfance, donc les références de quelqu'un qui n'est pas formé, c'est les références de son noyau familial, de comment il a été élevé. Et ça n'est pas reproductible, et c'est pas, tout le monde n'a pas été élevé non plus dans la bienveillance et voilà, dans une mentalité qui permet voilà de s'occuper des enfants et surtout de groupes d'enfants, puisqu'on est, les quotas ne sont pas respectés, il y a un vrai manque de personnel. Donc s'occuper de 30 enfants, et ben ça n'est pas évident, et encore moins quand ils sont tout petits.
Merci beaucoup d'être venue faire le point avec nous ce matin. Elisabeth Gutmann, vous êtes donc cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Je signale également que votre collectif a prépassé ce livre qui vient de sortir, Les Rois du Silence, Périscolaire, l'enquête choc. C'est aux éditions Robert Laffont. Il est 7h20, notre historien est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est une voiture iconique qui pourrait revenir en version électrique, la 2 chevaux.
Eh oui, la 2 Dodge a fait rayonner la France dans le monde entier. C'était la première voiture de qualité pour les classes populaires.
Dans un instant, vous nous en faites le récit et l'histoire. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face à face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier. Arthur, la 2 chevaux va peut-être bientôt ressusciter. C'est ce que dit le journal Les Échos. Stellantis envisagerait de relancer la mythique voiture d'ici 2028.
Et oui, à ce stade, le nom de code de ce futur modèle, c'est l'Icar. Alors, ce sera une petite voiture électrique à un prix abordable, a priori moins de 15 000 euros. Cette voiture reprendrait donc le nom et les lignes de la fameuse 2 chevaux.
De quand datait le premier modèle de la 2 chevaux?
Alors la 2 chevaux, c'est une histoire de fou qui commence dans les années 1930. À cette époque, Citroën travaille déjà sur la 2 chevaux. La marque fait les premiers plans, les premiers modèles. À l'origine, la voiture devait être présentée en 1939. Sauf que pas de chance, puisqu'à cette date, la France entre dans la Seconde Guerre mondiale. Du coup, l'opération de chevaux est annulée. Le pays est occupé par les nazis. Pendant toute la durée de l'occupation, Citroën va planquer les plans de sa future voiture.
Les Allemands vont justement tout essayer pour avoir ces plans.
Et oui, puisque les Allemands avaient entendu parler de ce modèle révolutionnaire et ils ont proposé un marché à Citroën. Ils voulaient les plans de la 2 chevaux en échange des plans d'un modèle que les Allemands étaient eux en train de concevoir et qui deviendra une des premières voitures de la marque Volkswagen, ça sera la Coccinelle. Pendant toute la guerre, Citroën va refuser ce marchandage en ne voulant pas traiter avec l'ennemi.
La 2 chevaux, elle sort finalement en 1948.
Oui, et c'est un modèle inédit pour l'époque. La voiture est compacte, pas chère, solide, mais aussi confortable. La preuve, c'est que la 2 chevaux est tellement stable, Apolline, que des médecins l'a recommandée pour les femmes enceintes. Donc c'est quand même pas rien. On peut dire que c'était en fait la première voiture de qualité pour les classes populaires.
Mais pas seulement.
Oui, puisque la voiture devient aussi le symbole d'un art de vivre typiquement français. Il y avait un président qui a roulé en 2 chevaux. Ce président, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et c'est une histoire assez amusante. Un jour, Giscard est en hélicoptère. Son hélicoptère a un problème. Du coup, il se pose, et la seule voiture disponible dans les parages, eh bien, c'était une 2 chevaux. Du coup, il a traversé Paris et franchi les grilles de l'Élysée dans une 2 chevaux. C'est un cas unique de l'histoire présidentielle.
Oh, c'est génial. On a l'impression d'une pub.
Voilà.
S'ils avaient voulu en faire une pub, ça aurait été encore mieux. La 2 chevaux va devenir une des voitures de James Bond.
Et oui, c'est dans le film Rien que pour vos yeux, qui est sorti en 1980. Et la scène, c'est une course-poursuite dans une 2 chevaux jaune pétante avec Roger Moore qui joue James Bond. Et à ses côtés, dans la voiture, c'est Carole Bouquet. bouquet.
Oh là là, magnifique. Surtout, la deux chevaux, c'est la voiture préférée de tous les temps des Français.
Exactement, c'est ce que disait un sondage réalisé en 2023. Alors, un résultat d'autant plus surprenant que la fabrication de la deux chevaux s'est quand même arrêtée en 1990, après plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Donc, c'est vraiment le choix du cœur. Cette voiture qui a eu tous les surnoms possibles et imaginables, hein, la Deux-Doches, le Petit Canard, la Chaise Longue sous la pluie, oui, c'est un surnom de la deux chevaux, et bien cette voiture légendaire, elle revient, Apolline.
Version électrique, donc sans doute. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Dans le face-à-face, tout à l'heure, mon invité, ce sera l'ancien ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial de la France au Liban, Jean-Yves Le Drian.
Oui, Apolline. Alors, partons tout de suite en forêt de Brocéliande. Je vous emmène en pleine nature à la rencontre du dernier macroniste de France. Voici Jean-Yves Le Drian, celui que l'on surnomme le menhir. Comme tous les Bretons, hein, comme oui, Jean-Marie Le Pen, comme Vincent Bolloré. Bon, pas comme Nolwenn Leroy, mais voilà. Jean-Yves Le Drian, qui est un animal centriste de la famille des macronistes de gauche, le dernier de son espèce. Il cherche vainement à s'accoupler, mais la disparition d'Elisabeth Borne du parti macroniste Renaissance rend l'opération impossible. Le macronisme de gauche est condamné à l'extinction. Ce n'est pas un dinosaure. Jean-Yves Le Drian a bâillé en regardant un discours de sa remplaçante Catherine Vautrin.
Elle est nulle. Aucune vision.
Les scientifiques sont formels. Si Jean-Yves Le Drian continue à penser qu'Emmanuel Macron est un bon président, c'est probablement que dans sa forêt, il n'a pas reçu toutes les infos de ces dernières années parce que ça capte pas.
Parce que c'est une zone blanche.
C'est une zone blanche. Alors Jean-Yves Le Drian, c'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron au Liban. C'est comme ambassadeur, sauf qu'il ne représente qu'Emmanuel Macron.
Oh non. Bon,
c'est un peu moins. C'est pas. En fait, c'est comme être mannequin, mais mannequin pour les pieds, quoi. Dans les pubs pour les mycoses, vous voyez, c'est un stade en dessous. Et sa mission, c'est d'assurer la paix dans la région. Bah bravo, mission accomplie. La seule région libanaise à pas avoir été bombardée jusque-là, c'est Saint-Tropez, c'est nul. Alors j'ai lu hier, Donald Trump menace de frapper l'Iran si un accord n'est pas trouvé. Et vous allez me dire, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est la même info que lundi dernier, voire que samedi dernier, ou que jeudi dernier, ou que mardi dernier,
ou que dimanche lundi dernier. D'ailleurs.
Parce que non mais Donald Trump dit ça tous les deux jours et le jour d'après il fait on est à deux doigts d'un accord, le plus grand de tous les accords jamais accordés à un accord, et ça tourne un peu en rond. C'est vrai que ça tourne en rond. D'ailleurs sur BFM ils s'emmerdent plus, ils rediffusent la matinale d'il y a deux jours. Vous avez remarqué, il y a personne, il y a rien qui change. Si le seul truc à bouger c'est le virus de la semaine. Voilà, bon là c'est Ebola, dans une semaine ce sera la polio. Bon. Ah, Jean-Yves Le Drian baille en loge. Il s'impatiente, il est arrivé. Eh bien, rendez-vous à 8h30. À
tout à l'heure. Je vous adore en commentaire animalier.
Bah oui, bah j'en referai un la semaine prochaine pour une nouvelle victime.
Allez, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, baby foot. Venez donc sélectionner un joueur et donc un cadeau dans la liste des 26. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. On sera en direct avec le gagnant avant 8h, vers 8h20. Et le studio s'est transformé en boîte de nuit, je vous le dis.
Coupe du monde,
honnêtement,
disco,
c'est ambiance disco pour la Coupe du Monde. Allez, il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis Arnaud Demange sera de retour aussi à 8h15. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Il sera là, Ousmane Dembélé, invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir. Et il le dit sur RMC, son mollet ira mieux pour la finale de la Ligue des Champions. Qui, quand, comment et surtout combien Sébastien Lecornu doit dévoiler de nouvelles aides carburant à 17h. Certains secteurs attendent un coup de pouce pour relancer l'activité. Et après les plaintes pour viol et agression sexuelle, Patrick Bruel, cerné par les maires de grandes villes qui lui mettent la pression pour qu'il annule ses concerts.
Ousmane Dembélé rassure tout le monde et c'est sur RMC.
Vous notez bien le rendez-vous, la star du PSG invité exceptionnel de Rotten sans flamme dès 18h à 9 jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Petite alerte au mollet ce week-end, mais l'attaquant le promet, il tiendra sa place.
voilà, j'ai eu une petite alerte face au PFC, mais ça va. J'ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ça soit ici au Paris Saint-Germain ou même avant, surtout les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale surtout. Donc non, j'ai préféré m'arrêter et pas prendre de risques surtout. Ça va le faire pour
la. Ça va, tu penses que tu seras 100%.
Oui, ça va le faire. Donc j'ai pas de doute sur ça. J'espère être sur le terrain le 30.
Interview à retrouver en intégralité sur RMC à 18h dans Rotten sans flamme. Notez que l'ex-entraîneur de Paris, Unai Emery, a été sacré en Europa League pour la 5e fois de sa carrière. Son équipe d'Aston Villa a remporté la finale 3-0 hier soir contre Fribourg. De nouvelles aides carburants doivent être annoncées cet après-midi. Sébastien Lecornu face à la presse à 17h et il pourrait élargir le champ des travailleurs soutenus face à l'envolée des prix à la pompe. L'autre enjeu pour endiguer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, c'est comment secourir les filières les plus exposées, comme la plasturgie. À Saint-Vulbas, dans l'Ain, par exemple, RMC s'était rendu dans une usine de bacs et de palettes, contrainte de fermer ses portes pendant une semaine. Vincent Chevalier, pour son patron, l'avenir est toujours incertain.
Cette fermeture temporaire a été un crève-cœur pour Fabrice Bachelier, le directeur général d'Uts France.
Une usine à l'arrêt, une usine qui fait pas de bruit, c'est toujours angoissant.
À la reprise de l'activité, avec la flambée des prix des matières premières issues de la pétrochimie, il a fallu se réorganiser, renégocier les contrats avec des clients. Un mal pour un bien, certains ont préféré anticiper la suite.
Le fait d'avoir du stock de matières premières, on a nos clients qui ont beaucoup commandé en prévision des fortes augmentations de matières. Donc on a pris beaucoup de commandes, on a rempli les ateliers, je dirais jusqu'à la période de l'été.
Mais le chef d'entreprise n'est pas aussi serein pour le deuxième semestre, avec une guerre qui s'éternise et un risque de pénurie sur certaines matières. S'il n'attend pas grand-chose du gouvernement, quelques aides pourraient être les bienvenues.
Beaucoup d'entreprises vont utiliser ces prêts s'il y a des prêts garantis par l'État, comme ça s'était fait pendant le Covid. S'il y a ce genre d'aide, les entreprises qui sont en situation financière tendue vont certainement les utiliser. Ce ne sera pas notre cas. Nous, ce qu'on attend, c'est effectivement qu'on ait peut-être moins de taxes sur les produits pétroliers, sur les matières plastiques. Il faut effectivement peut-être que le gouvernement joue un peu plus le jeu de ce côté-là.
Une possibilité écartée depuis le début du conflit par le Premier ministre.
On en vient à ces tensions diplomatiques et à ce tollé international venu d'Israël. Paris a annoncé hier convoquer l'ambassadeur israélien. La même chose en Belgique, en Espagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Cyprien Pézeri, l'objet de la polémique, c'est une vidéo de détention de militants pro-palestiniens, dont 37 Français, interceptés alors qu'ils tentaient de rallier Gaza par bateau.
Des dizaines de militants pro-Gaza, agenouillés, tous collés les uns aux autres, visage face au sol, les mains liées et l'hymne national en fond. Image publiée par Ben Gvir, l'un des ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien. Humiliation à tel point que Benjamin Netanyahou considère que ce n'est pas conforme aux normes et valeurs d'Israël. Parmi les interpellés, des Canadiens, des Belges, des Italiens et des Français. Agissement indigne, dénonce la France par la voix de Jean-Noël Barrot. Quoi qu'on pense de cette flottille, nos compatriotes doivent être traités avec respect, écrit le ministre des Affaires étrangères, qui convoque donc l'ambassadeur en guise de sanctions diplomatiques. Un premier pas insuffisant pour Gabrielle Catala, députée LFI et ancienne participante à une flottille.
On ne peut que se féliciter que pour la première fois, le Quai d'Orsay annonce convoquer l'ambassadeur d'Israël, mais moi j'aimerais que la convocation ce ne soit pas que pour ces images. Elle est justifiée par le génocide qui se poursuit à Gaza, par la colonisation qui s'accentue en Cisjordanie. Et donc moi j'aimerais des sanctions à l'égard d'Israël et j'aimerais que l'ambassadeur d'Israël soit renvoyé en Israël.
Une scène condamnée par d'autres dirigeants européens. La première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, convoque elle aussi l'ambassadeur d'Israël.
Et à 8h30, ne manquez pas dans le face-à-face la réaction de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, qui sera mon invité.
À 7h35 sur RMC, Paris, puis Marseille, puis Lille et d'autres dans leur sillage. Toute la journée d'hier, des maires de grandes villes ont appelé Patrick Bruel à annuler ses concerts. Eux-mêmes n'ont pas le pouvoir d'interdire à l'artiste de se produire dans leur commune. Alors Marion Gauthier, face aux 12 plaintes en France pour viol et agression sexuelle, il lui demande d'agir lui-même.
Ils en appellent à la responsabilité du chanteur. Les maires socialistes de Lille ou Saint-Étienne, l'édile Horizon de Reims, qui pensent personnellement que la tournée devrait être annulée ou reportée. Quant à Brest, le maire d'hiver droite, Stéphane Roudot, met en avant la sérénité nécessaire à la justice.
Vous imaginez aujourd'hui les concerts se tenir ? Je pense qu'il y a des personnes qui ont acheté ces billets qui n'iront pas, d'autres qui viendront pour manifester devant les salles pour que la justice passe Il faut de la tranquillité, de la sérénité.
Une question aussi de dignité, pas incompatible avec la présomption d'innocence pour lui, comme pour la métropole de Nancy, qui insiste sur le nombre de témoignages et leur convergence. Son vice-président, Hussein Chabira.
On ne peut pas d'un côté lutter contre la violence sexuelle à l'encontre des femmes et de l'autre côté accueillir sur notre territoire une personne qui fait l'objet d'une trentaine d'accusations. On ne pouvait pas rester silencieux.
Patrick Bruel est programmé presque chaque semaine, du 16 juin jusqu'au 21 novembre en France. À Toulouse, le maire n'envisage pas de prendre le costume du censeur, dit-il, une position qui serait inverse si le chanteur était condamné.
Marion Gauthier pour RMC. On vous le présentait hier, à la même heure, Emmanuel Moulin a bien été nommé gouverneur de la Banque de France. Trop peu de sénateurs et de députés se sont opposés à ce nom proposé par Emmanuel Macron, dont il est infidèle. Et puis en mode basket, pas de deuxième victoire consécutive pour Victor Wembanyama en finale de la conférence Ouest de NBA. Ses San Antonio Spurs viennent de s'incliner 122-113 contre l'Oklahoma Thunder. Un match partout dans cette série où le premier à 4 matchs l'emporte.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp aujourd'hui.
Départ à 20h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 6, Bassanti. Son outsider, c'est le 14, Senna Yulia. Le 6 et le 14.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h37. On part au 32-16. C'est Sophie qui témoigne ce matin. Sophie, aide à domicile à Saint-Gaultier dans l'Indre. Bonjour Sophie.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Sophie? Ce matin, vous nous parlez de votre quotidien qui a évidemment changé avec le prix du carburant, avec le retour aussi de l'inflation. Sébastien Lecornu doit annoncer des aides cet après-midi. Vous espérez encore quelque chose, vous?
Ah, plus rien du tout. Ça fait longtemps que j'ai oublié d'espérer quelque chose de ce gouvernement. C'est des mesurettes, ça sert à rien. On comprend rien à ce qu'ils disent, de toute façon. Et nous... je vous ai eu au téléphone il y a quelques temps en arrière.
On s'est parlé il y a 15 jours.
Voilà, un peu plus. Et puis, j'ai l'impression que plus ça va, plus je coule.
Plus vous coulez, c'est-à-dire comment ça se traduit au quotidien, Sophie?
C'est-à-dire qu'un jour sur deux, je vais travailler à pied pour pouvoir travailler.
OK. Donc, pour économiser du carburant.
Voilà, 5 à 10 km par jour.
OK.
Voilà, et derrière, je me prive. Donc, je mange de la viande très peu. J'achète tout en date courte et ça m'arrive de faire les poubelles.
Ça vous arrive de faire les poubelles? C'est nouveau ça? Voilà. Enfin, vous avez un boulot, Sophie.
Oui, j'ai un boulot, mais j'y arrive pas. Je suis toute seule, donc femme seule, avec un travail, malheureusement propriétaire de sa maison, je dirais. Donc aucune aide.
Donc vous n'avez aucune aide? Vous touchez combien par mois, vous, de votre boulot?
Alors, mon boulot, je suis à entre 1000 et 1200 euros les bons mois. Et j'ai pris un boulot supplémentaire pour compléter.
C'est quoi?
Alors, je fais des études dans les magasins, les relevés de prix. Alors, je suis au cœur de l'actualité.
Oui, j'ai envie de vous dire, honnêtement, vous êtes aux premières loges et vous les voyez monter, du coup, les prix. C'est pas ça qui va vous détendre. Mais dites-moi, Sophie, mais c'est quand même très fort quand vous dites, désormais, je fais les poubelles. C'est-à-dire que quoi? Quand vous sortez des magasins, comment ça se traduit? Comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait ça, Sophie?
Bah écoutez, moi je me suis aperçue que les magasins continuent à gaspiller de la nourriture, pas tous hein, bien sûr, et que on était de plus en plus de gens à faire de la récup. Alors c'était au départ des palettes, et puis on s'est aperçu qu'il y avait de la nourriture. Donc on a monté un petit groupe.
Ouais.
Et une fois par semaine, on se retrouve et on mange à 3-4 familles sur les poubelles des magasins.
Ensemble.
Ensemble.
Ah, au moins, vous n'êtes pas seul. Mais c'est vraiment une sorte d'organisation désormais.
Ah oui, c'est une organisation. On se réunit en petits groupes. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas. Donc, forcément, il y a des produits que je ne prends pas parce que je n'ai pas d'enfants.
Parce que vous leur laissez en priorité?
Parce que je leur laisse. Mais il y a des légumes. Mais il n'y a pas que de la nourriture, malheureusement. C'est ça le problème.
Et vous mangez sur place?
Non, on emmène. Non. On emmène, on trie.
D'accord.
On fait attention à ce qu'on mange, hein, parce qu'on ne veut pas non plus tomber malade.
Mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes retrouvés?
En fait, c'est tout bête. Hein. Moi, au départ, j'étais allée dans les poubelles pour récupérer de la ferraille, histoire de me dire, je vais me faire un petit billet en fin d'année. Ouais. Et puis, j'ai vu une personne et on a monté un petit groupe WhatsApp. Et dès qu'il y en a un qui a une information sur un magasin qui jette, on
il informe les autres et il y a une solidarité.
Voilà.
Presque une amitié dans ces moments-là, en fait.
Ouais. Bah, on essaye de faire comme on peut pour se sortir de cette galère. Et encore, moi, je suis pas à plaindre. Je travaille, j'ai une vie sociale quand même. Mais bon, il y a des gens qui sont seuls. Quand ils ferment la porte de chez eux, ils font quoi?
Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage.
On va attendre qu'il y ait des drames.
Merci Sophie pour votre témoignage ce matin et régulièrement à l'antenne d'RMC. Sophie, donc aide-soignante dans l'Indre, aide-soignante et effectivement ces études que vous faites en plus pour les magasins. Merci pour votre témoignage, 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France est toujours championne d'Europe des investissements étrangers. Bonjour Louis-Marguerite. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Business France. Vous avez pris votre poste il y a 2 mois et vous pouvez vous féliciter de ce classement. La France est donc le pays d'Europe qui attire le plus d'investisseurs internationaux. Alors, pour autant, ces investissements, ils sont en baisse de 17%. On est en train de se faire rattraper par certains de nos voisins. Vous êtes sûr de votre classement? Parce que j'avoue que dans le contexte actuel, on se dit c'est assez inouï qu'on s'en sorte au moins sur ce point.
Oui, c'est une bonne nouvelle et il faut la saluer. On en est d'autant plus sûr que c'est pas nous qui le faisons, même si évidemment nous travaillons avec EY, c'est eux qui font le classement maintenant depuis pas mal d'années. Moi, je retiens 3 choses importantes. La première, c'est que la France tient son rang. La France tient son rang grâce à ses fondamentaux, grâce à son réseau de transport, son réseau d'électricité, son accès à l'énergie qui est décarbonée, abondante, et on sait tous ses atouts. La deuxième chose, c'est que nous sommes premiers sur un certain nombre de sujets, les sujets industriels, les sujets liés aux data centers, les sujets aussi sur les centres de décision. On reste deuxième, et ça c'est bien, parce que ça prouve que les investisseurs veulent s'établir en France. J'étais hier à Dubaï, à Abu Dhabi, on a notamment une banque d'Abu Dhabi qui souhaite établir son hub en France. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et puis la troisième, vous avez raison, c'est que c'est une baisse, mais c'est une baisse qui est généralisée en Europe, qui montre effectivement peut-être un début d'attentisme, mais généralisé en Europe.
Oui, donc c'est pas nous qui baissons et les autres qui montent.
Non, c'est nous baissons, et d'ailleurs voilà, nous baissons. Alors un peu plus que les autres, c'est vrai, mais on reste notre première place. Et je suis content de voir que certains même nous avaient prédit que nous allions perdre notre première place, nous le sommes toujours.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous parlez des infrastructures. On en parle beaucoup en ce moment. La solidité aussi de notre réseau d'électricité et son coût très faible par rapport à nos voisins, notamment parce que l'investissement dans nos centrales, ça c'est un des arguments qui fait que quand ils ont le choix entre investir entre différents pays européens, ils vont choisir la France.
Clairement, parce que la France a choisi le nucléaire depuis tant d'années, depuis des dizaines d'années, on le sait, on a eu ce débat. C'est d'ailleurs un débat qui transcende assez largement les partis politiques, et tant mieux.
Désormais, ça n'a pas été le cas.
C'est vrai, mais en tout cas, c'est une bonne chose avec la loi de 2023 qui a donné vraiment un souffle, vraiment une poussée très forte là-dessus. Nous exportons assez largement aussi notre électricité, et nous avons des demandes extrêmement fortes. Il y aura des annonces d'ailleurs à Choose France qui aura lieu le 1er juin au château de Versailles. Ce sera probablement un assez beau Choose France avec effectivement beaucoup d'annonces sur tout ce qui est data center, tout ce qui est intelligence artificielle, et parce que nous avons à la fois de l'espace et un bel accès à l'énergie.
Vous avez entendu les propos d'Arthur Mensch, le patron de Mistral IA, face au sénateur il y a quelques jours, à qui il a fait un tableau très sombre de la manière dont la France et l'Union européenne se tiraient des balles dans le pied.
Moi, je pense qu'on a des progrès à faire en européen, parce que ça peut être aussi une bonne réponse face à la déferlante asiatique. On en parle aussi régulièrement sur votre plateau, parce que non seulement la concurrence asiatique, elle a fait beaucoup de concurrence en termes de prix, mais maintenant aussi sur la qualité de ce que nous consommons. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une réponse en termes de protection, bien évidemment, mais aussi en termes d'export européen. Effectivement, on n'est pas encore au bout des choses, mais bon, après, encore une fois, il y a peut-être des expériences heureuses et puis des expériences un peu moins heureuses. Nous, on accompagne tous les types d'investisseurs. Voilà,
avec une question aussi sur ce que l'on a appris hier, l'entreprise chinoise Dongfeng va s'installer en quelque sorte dans une usine Stellantis en France et près de Rennes pour produire des voitures électriques et hybrides. Est-ce qu'on peut se dire c'est une très bonne nouvelle, cette association en quelque sorte avec un fabricant chinois, ou est-ce que c'est pas une manière d'avoir fait quand même rentrer le loup dans la bergerie?
Je crois que c'est une décision qui est en tout cas un projet qui est pragmatique. Je comprends que cette décision puisse...
En gros, ils vont être colocs de lignes de production, quoi.
En fait, il faut d'abord voir que nous, en France, on est plutôt plus protecteurs que beaucoup d'autres pays européens. D'ailleurs, parfois, ça nous joue des tours. Notamment les Chinois, en tout cas les investisseurs chinois, souhaitent venir dans des pays européens qui n'ont pas voté les droits de douane. Et parfois, ça nous joue des tours dans nos propres filières. Je pense à la filière cognac, je pense à un certain nombre d'autres filières. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la part de l'automobile chinois en France est 2 fois plus faible en France que dans d'autres pays européens. C'est 8%, que la moyenne européenne, c'est 14%. Donc, on est plutôt plus protecteurs protecteur. Et en l'occurrence, moi, je pense qu'il faut se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir des voitures en marque française produites ailleurs que chez nous, plutôt que des voitures sous marque autre que française, en l'occurrence, ça pourrait être chinoise ou d'autres, qui sont pour partie produites en France. C'est important d'avoir cette main d'œuvre, donc je pense que c'est une décision pragmatique.
L'élection présidentielle est dans un an, il n'y a toujours pas de majorité réelle et solide à l'Assemblée. Est-ce que cette insécurité politique, instabilité, difficulté à prévoir, pèse aussi dans le léger ralentissement des investissements?
Alors, elle n'aide jamais parce que les gens nous posent des questions. Moi, de partout où je suis passé aux États-Unis, je suis passé hier dans les Émirats arabes.
Vous êtes un peu le VRP de la France, quoi.
Je suis un des VRP de la France, mais c'est merci de ça. Non, mais pour autant, je pense que ce qui est important, c'est de donner de la visibilité. Et ce que nous disent les investisseurs, c'est que quelle que soit la trajectoire politique de la France, quand ils l'apprennent, parce que parfois ça peut ne pas les intéresser, ils nous disent que de toute façon, la France reste la France en termes d'infrastructure, de densité, d'accès à l'énergie, et ça, quoi qu'il arrive, ça restera.
Merci beaucoup d'être venu donc défendre le business France, Business France, puisque vous êtes le nouveau directeur général de Business France, Louis Marguerite. Il est 7h50, elle est rentrée dans ce studio, la voix de gauche, Cécile Duflot. Salut Cécile.
Bonjour Pauline.
Les boutiques de centre-ville doivent éteindre leur enseigne la nuit, relancer l'idée de l'économie d'énergie. C'est votre combat ce matin.
Et oui, parce que la ville rose ne doit pas devenir la ville lumière. C'est le tribunal de Toulouse qui lui a rappelé. Mais plus que ça, je voudrais dire que les économies d'énergie doivent redevenir tendance.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53, et comme tous les jeudis, c'est la voix de gauche sur RMC. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, on l'a appris hier, pour la première fois, une ville a été condamnée pour ne pas avoir obligé des enseignes à éteindre leurs vitrines la nuit. C'est la ville de Toulouse. Elle doit donc appliquer la loi, c'est ce que rappelle le tribunal. C'est une décision salutaire à vos yeux.
Oui, c'est une très bonne décision à l'initiative de France Nature Environnement qui avait porté plainte, parce que en fait, c'est l'exemple même du gaspillage. C'est vraiment, ça ne sert à rien, des vitrines allumées la nuit, ça ne sert à rien. Depuis 2013, c'est dit, la réglementation s'est renforcée même en 2018, et donc la justice dit simplement une chose très simple, il ne faut pas interdire la lumière ni l'éteindre, il faut juste éviter l'absurde d'allumer la nuit. Et on se souvient, il n'y a pas si longtemps, en 2022-2023, on nous a expliqué que chaque kilowatt consommé comptait.
Vous évoquez justement cet hiver 2022-2023, on était en pleine guerre en Ukraine, c'était un moment où on s'est tous dit « faut baisser le chauffage ».
Oui, c'est la première fois où on a dit « attention, il peut y avoir des risques de coupure ». Et ça, tout le monde s'est rendu compte de ce que ça voulait dire si 2 heures par jour, on n'avait plus d'électricité à la maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des raisons, hein, les centrales nucléaires en rénovation, la guerre en Ukraine, le prix du gaz. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait énormément baisser la consommation. Les ménages, tout le monde, moins 9%, c'est énorme. Et donc ça a montré qu'en fait, si on voulait faire des efforts ensemble, on y arrivait. Tout le monde l'a fait, y compris les entreprises, mais aussi, je le dis, les ménages et les collectivités locales. Parce qu'on parlait franchement, parce qu'on expliquait que c'était un effort collectif, donc on est capable de le faire ensemble de manière collective.
Et on le fait plus ?
Eh ben, en fait, on s'est un peu relâché sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'est quand même pas revenu, donc ça a réaugmenté un peu en 2024, et l'année dernière, on est retrouvé à un niveau qui est quand même très antérieur à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on sait un peu maintenant ce que c'est que la sobriété, décaler ses machines la nuit, etc. Je pense qu'on a encore un pas de plus à faire, c'est que aujourd'hui, on croit que l'abondance lumineuse, la surconsommation d'énergie, c'est une sorte de progrès. C'est comme ça, en fait, qu'on a construit le progrès au XXe siècle, on a
gaspillé l'énergie. C'est Times Square, c'est évidemment...
Exactement. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à faire différemment et se dire que la sobriété, économiser l'énergie, on le voit avec ce qui nous arrive autour du pétrole et ce qu'on nous dit chaque matin, c'est que ça peut être tendance. C'est de se dire, voilà, c'est un grand chantier pour tous les Français. Comment on va vivre aussi bien en gaspillant moins d'énergie ?
Comment on fait pour que ça devienne tendance ?
Eh ben, parce qu'on dit que c'est une aventure collective. C'est pour ça que je parlais de l'hiver 2022-2023. On s'est dit, attention. Attention, regardez ce qui risque de nous arriver. Donc, on va pouvoir le faire ensemble. Et pour tout dire, RTE, qui gère le réseau électrique, a été surpris de l'ampleur de la baisse. C'est-à-dire qu'on est allé bien au-delà de ce dont on avait besoin. Ce qui prouve qu'on est capable de le faire, il faut le faire aussi de manière positive. Et c'est aussi ça, c'est toujours vécu comme une sorte de privation, pas du tout. En fait, payer moins d'électricité, payer moins d'énergie, ça nous laisse plus d'argent pour faire des choses plus sympas que gaspiller de l'énergie.
Et c'est dit, merci Cécile. Cécile Duflot, ancienne ministre et voix de gauche d'RMC. Demain, place au débat. Face à vous, Cécile, la voix de droite, Charles Consigny. Il est 7h56. 6. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une Sébastien Lecornu qui doit donc annoncer cet après-midi une nouvelle aide face à la crise énergétique. Quelles pistes envisager? On vous dévoile ces pistes, mais on attend aussi vos demandes. Appelez-nous au 3216 pour nous dire ce que vous en attendez. Et puis juste après, il y aura Emmanuel Le Chip, justement sur ces aides. Les patrons vont sans doute devoir passer à la caisse à un moment, va falloir payer quand même.
Mais c'est eux qui vont assurer notre pouvoir d'achat et donc il faudra pas dire merci Macron, mais merci patron.
Vous nous le dites dans un instant. Il va y avoir aussi la météo et Géraldine, vous allez voir, s'en donne à cœur joie parce que ça y est, il fait beau et il fait chaud. 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. 7h59.
RMC, Apolline Matin.
Et ça y est, il est 8h. Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vraiment un sale temps pour le porte-monnaie. 8 Français sur 10 disent qu'ils se serrent la ceinture. Énième conséquence de la guerre au Moyen-Orient à laquelle Sébastien Lecornu va tenter de répondre ce soir en faisant des nouvelles annonces. Avis de tempête, vous verrez, sur Roland-Garros qui commencera dimanche. Les joueurs de tennis vont faire comme une grève demain pour demander de meilleures primes. Et le soleil, oui, de retour. On sera à Toulouse dans ce journal où on aura un avant-goût de l'été dès aujourd'hui.
Nous sommes le 21 ce matin et énormément de Français sont déjà dans le rouge.
8 Français sur 10, oui, racontent qu'ils sont obligés de se serrer la ceinture et de faire attention à chaque dépense, d'après le dernier baromètre Elab pour BFM TV. C'est un chiffre qui est en hausse de 4 points sur les 4 derniers mois et ça coïncide avec la guerre au Moyen-Orient qui a fait flamber les prix des carburants et à la consommation. Il manque 500 euros chaque mois pour vivre correctement, disent les deux tiers des Français. Écoutez la preuve avec Antonin Audion pour RMC.
Depuis quelques mois, Mylène a changé ses habitudes lorsqu'elle fait ses courses.
Je regarde beaucoup plus. Par exemple, dans les supermarchés où je vais, il y a le scan achat. Et donc, je vais faire beaucoup plus attention au total avant de remplir le panier davantage. Et en effet, un panier de courses avant à 100 euros où il y avait énormément de choses, maintenant on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose.
Cette mère de famille qui habite dans la Creuse est donc obligée de faire des choix.
Moins consommer, on achète moins, un petit peu moins de plaisir finalement aussi à la famille. C'est méga frustrant pour quelqu'un comme moi.
Mylène essaye donc de trouver des solutions pour consommer pas cher.
Par exemple, dans les primeurs, ils font des paniers anti-gaspi.
7 Français sur 10 se sont mis à acheter dans les rayons anti-gaspi selon l'étude. Alexia a pris cette habitude il y a quelques mois et elle économise à chaque passage en caisse.
Un bon 40%. Là, si par exemple j'avais été dans mon magasin habituel, j'aurais payé le double. Ça compte clairement. Effectivement, le concombre, il peut être un peu tordu, la carotte un peu plus petite, mais voilà, pas de problème avec ça. On est très contents qu'ils soient en bas de la maison.
En plus de ces rayons anti-gaspi, les bons de réduction et la seconde main sont de plus en plus utilisés par les Français.
Et voilà donc dans quel contexte le Premier ministre Sébastien Lecornu fera de nouvelles annonces à 17h tout à l'heure sur les prix et les carburants et plus largement sur toutes les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Sébastien Lecornu a déjà promis un changement d'échelle dans le dispositif, mais ce ne sera pas généralisé.
Ah non, on va plutôt rester sur un goutte-à-goutte. Pas question d'ouvrir les vannes, de baisser les taxes par exemple. Le Premier ministre va le marteler cet après-midi. Son cap ne varie pas. Les aides resteront très ciblées, uniquement destinées à soutenir l'activité économique et dans un contexte budgétaire qui ne peut que se dégrader dans les mois qui viennent. Autrement dit, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de garder le pied sur le frein. C'est pour prendre le temps de cette explication que Sébastien Lecornu a donc convoqué pour la première fois une conférence de presse cet après-midi. Préparer les esprits aussi à des décisions difficiles, prévient son entourage. La promesse, c'est tout de même que les travailleurs gros rouleurs soient plus nombreux à être soutenus. Les soignants, par exemple, attendent beaucoup. Les secteurs professionnels aussi, en plus des agriculteurs, des pêcheurs, du BTP, on attend des annonces dédié aux taxis ou à d'autres secteurs impactés comme l'industrie de la chimie. Et parce que l'État ne peut pas tout, le Premier ministre réfléchit aussi à inciter les entreprises à prendre leur part en versant par exemple des primes à leurs salariés qui roulent beaucoup.
Et hasard du calendrier, j'en profite pour vous rappeler que c'est le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne jusqu'à 23h59, ce soir précisément dans les départements qui vont des numéros 01 à 19, autrement dit de l'1 jusqu'à la Corrèze. Les autres auront un petit peu plus de temps. Il y a plusieurs maires qui prennent la parole depuis hier soir, ceux de Paris, de Lille, Saint-Etienne, Brest, Marseille aussi, tiens, Marseille c'est RMC qui vous l'a révélé, pour demander à Patrick Bruel de renoncer à ses concerts prévus, vous le savez, à partir du mois prochain dans une cinquantaine de villes. Lui qui est accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes est visé par 5 enquêtes, 4 en France et une en Belgique, où il y a d'ailleurs ce nouveau témoignage ce matin, c'est celui d'une attachée de presse qui accuse le chanteur d'agression sexuelle en 2010 dans les locaux de la télé belge. Écoutez ce qu'elle dit avec Amélie Courté.
Dès l'arrivée de Patrick Bruel en Belgique, des taquineries légères, ambiguës, fusent.
Mais très très vite, ça devient pour moi un harcèlement.
Je suis devenue sa proie, raconte Karine Viseur. En permanence, il cherche son contact.
J'aurai toujours sa main soit dans mon dos, soit dans mon cou. Il ne demande pas, hein, il ne demande jamais. Il n'a pas de limite en fait.
Et personne ne lui en met, jusqu'au soir où elle se retrouve seule avec lui dans un couloir de la RTBF, le média public belge.
Il m'attrape par le poignet et m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé. Il essaye de m'embrasser, s'élève dans mon cou, ses mains qui caressent mes jambes, qui remontent sous ma robe. Je m'isole, mon cerveau est ailleurs.
Elle dit non à plusieurs reprises, Patrick Bruel n'écoute pas.
J'arrive heureusement à me défaire de ce et je continue à la promotion du film.
Pendant 15 ans, Karine Viseur enfouit ce traumatisme. Aujourd'hui, comme une trentaine d'autres femmes, elle sort du silence.
Je sens que les paroles se libèrent. Ça demande énormément de courage parce que je suis entachée et c'est à vie.
Elle salue les élus qui appellent le chanteur à ne pas se produire dans leur ville. C'est honorable, respectueux envers les victimes, dit-elle.
Voilà pour le récit d'Amélie Courtet avec ce témoignage recueilli par BFM TV. Tiens, j'ai des nouvelles rassurantes à vous donner. Ousmane Dembélé, ce matin, il pourra jouer a priori la finale de Ligue des Champions dans 9 jours, touché au mollet le week-end dernier. Mais ça va le faire, c'est ce que dit l'attaquant lui-même dans un entretien exclusif à RMC. À ne surtout pas manquer ce soir à 18h dans l'émission Roten sans flamme. On peut pas faire plus français comme information. Il y aura grève des joueurs de tennis demain lors de la présentation du tournoi de Roland-Garros qui commencera dimanche. Les vedettes du circuit en fait demandent une meilleure redistribution des recettes dans les tournois du Grand Chelem. Ça faisait un petit moment que ça a monté cette colère et il y aura donc comme une grève demain, Eric Salio.
Oui, les prises de position lors du tournoi de Rome, avec notamment une menace de boycott de la part d'Arina Zabalenka, la numéro mondiale, vont avoir une suite demain à Roland-Garros à l'occasion du Media Day. C'est une journée où traditionnellement les stars accordent une heure de leur temps avec des interviews exclusives au profit des télévisions qui payent très cher des droits. Et là, on se dirige vers un service minimum, à savoir 15 petites minutes de conférence de presse, une action forte et totalement inédite qui place la Fédération française dans une position très embarrassée. Une réunion avec les agents est envisagée demain après-midi, mais on n'est pas à l'abri que cette initiative s'étende durant toute la quinzaine.
Bon, et je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de pluie pour les premiers jours du tournoi de Roland-Garros. Vous savez qu'on surveille ça chaque année. On passe niveau météo d'un extrême à l'autre. On avait de la pluie, même de la neige, il y a une semaine pour le pont de l'Ascension avec des températures qui étaient 5 degrés en dessous des normales de saison. Et on bascule brutalement, là, soudain, dans une ambiance estivale avec des températures qui seront jusqu'à 10 degrés au-dessus, cette fois, des normales. On va dépasser les 30 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Biarritz et à Toulouse aussi, où notre correspondant Jean-Wilfried Forquès est obligé de changer sa garde-robe.
Lali et ses collègues ont attendu l'arrivée de la chaleur pour installer dans les rayons de cette boutique de vêtements la collection été.
Une collection un peu plus colorée, un peu plus fine, qui fait du bien pour l'été.
Et une couleur est à l'honneur pour ces journées ensoleillées.
On veut du renouveau, on veut quelque chose qui peps et on a besoin de jeunes pour quelque chose qui peps. On marque vos esprits, on met de la couleur.
De leur côté, les restaurateurs comme Alexandre Saint-Louis ont installé leur terrasse protégée par de grands parasols.
Les gens ils se mettent en extérieur, ils viennent enfin profiter des beaux jours et du beau temps. On met en place aussi des brumisateurs pour que les gens puissent apprécier enfin cette fin de printemps et ce début d'été qui arrive à grands pas.
Après le froid, il faisait 17 degrés en début de semaine, mais surtout la pluie des derniers jours. Les Toulousains sont ravis de retrouver la chaleur.
Ça arrive un peu tôt, mais on est habitué. Donc on va pas se plaindre, on a eu suffisamment de pluie.
Là, il va faire très chaud. Les ventilateurs vont être de sortie. On prend des petits coups de soleil, mais on se protège.
Dans les prochaines heures, à Toulouse, le mercure va flirter avec les 30 degrés.
Mais alors attention, on peut pas parler de canicule, hein. On peut dire que c'est une vague de chaleur hein, quand même, puisqu'on va être nettement au-dessus des normales sur la durée avec un pic qui est attendu mardi prochain, nous dit Géraldine.
C'était le journal de Quentin Vinès et l'heure de l'économie, 8h08.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. On en parlait dans le journal de 8h. Sébastien Lecornu va donc tenir une conférence de presse cet après-midi. Il a promis de changer d'échelle pour aider les Français à traverser la crise énergétique. Est-ce qu'on sait combien on peut espérer?
Alors si je vous dis qu'au total, tout compris, y compris avec les nouvelles aides qui vont être annoncées, vous allez toucher à peu près 100 à 150 euros, est-ce que vous considérez qu'on change d'échelle par rapport à la problématique du pouvoir d'achat? Alors justement, non, personne, en fait, l'idée, c'est que personne n'aura sans doute plus que 100 ou 150 euros parce que personne ne bénéficiera de...
Ce sera le maximum.
Ouais, ce sera le maximum. Franchement, ce sera le maximum parce
tout
que...
Tout est confondu.
Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Qu'est-ce qu'il va annoncer Sébastien Lecornu? Alors oui, il va dire que on continue à aider les professions déjà soutenues, les pêcheurs, les routiers, les agriculteurs, le BTP. On va élargir les ristournes sur l'essence aux aides-soignantes et aux aides à domicile. Et puis, évidemment, pour les gros rouleurs, bah, on va essayer de faire un petit peu plus, mais on va surtout solliciter au maximum les entreprises, hein, puisque ce sont elles qui ont de l'argent. C'est Total qui a quand même laissé 500 millions d'euros dans les poches des Français. On va peut-être aller avec un peu de défiscalisation à la clé, inciter les entreprises à être plus généreuses sur la prime de partage de la valeur. Mais la prime de partage de la valeur, c'est un tiers à peu près des entreprises seulement.
C'est ce qu'on appelait la prime Macron.
La prime Macron, exactement. Ou bien, autre possibilité, c'est d'aller être peut-être un peu plus généreux sur les indemnités kilométriques, vous savez, pour qu'elles rapportent davantage aux salariés. Mais ça, c'est des mesures pour les classes moyennes qui travaillent, pas pour les plus modestes. Mais au final, donc, 100 à 150 euros, c'est le grand maximum. Bon, pour se rassurer, on peut dire que tous les conseils qui vont être prodigués pour aller vers plus de sobriété...
Oui, en fait, ils vont nous dire aussi à nous de faire des efforts, quoi.
Voilà, et tous ces conseils-là sont gratuits, je vous rassure, Apolline.
Combien de milliards est-ce qu'il va falloir économiser derrière pour financer notamment tout ça, et aussi le manque à gagner pour l'État, parce que ça y est, ça rentre plus...
Bah, le vrai problème, Apolline, c'est ça. C'est que s'il fallait parler de changement d'échelle, ce serait plutôt un changement d'échelle pour aller vers davantage de réduction des dépenses publiques et des déficits, parce que la facture de la guerre en Iran, on est déjà à 7 milliards d'euros. Si vous prenez les 6 milliards liés à la hausse du coût de la dette, à la au coût de la revalorisation du SMIC, on a déjà 1 milliard de plus.
En fait, celui qu'il faudrait aider, là, c'est l'État.
Bah oui, 1 milliard de plus de rallonge de dépenses militaires. La fameuse cagnotte, là, vous savez qu'elle s'est évaporée complètement. Aujourd'hui, on est à 300 millions de pertes sur les recettes fiscales liées au carburant, plus les 500 millions... d'annonces déjà faites, sans compter les annonces de soir, on est déjà à 8 milliards. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, ce sera 2 à 3 milliards de plus. Donc déjà, il va falloir trouver une dizaine de milliards. Ça, c'est quand même le plus compliqué. Et donc, je pense que Sébastien Lecornu...
Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait
non,
ouvert...
Et je pense qu'il faudra s'estimer heureux, même si on ne nous annonce pas des nouveaux efforts du côté des impôts.
Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC...
Alors, le gazole, on est à 2,16 € le litre. C'est 3 centimes de plus qu'il y a une semaine. Sur le sans-plomb 95, on est à 2,06 €. La bonne nouvelle, c'est que c'est un petit centime de moins qu'en début de semaine. Mais c'est plus de 2 centimes quand même par rapport à la semaine dernière. Le pétrole, alors légère détente, hein, grâce à cette perspective, encore une fois, d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Mais on était à 110, on redescend à 115. Ça fait quand même 10 jours qu'on est au-dessus des 105 $ le baril. Et puis, petite détente aussi sur le gaz, on perd 5%.
Perspective d'accord, vous le dites, et ne manquez pas à 8h30, Jean-Yves Le Drian qui sera mon invité dans le face-à-face. Merci Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12 sur RMC et vous êtes nombreux à avoir entendu tout à l'heure Sophie qui racontait combien son quotidien avait changé, qu'elle se sentait désormais obligée de faire les poubelles. Elle racontait qu'elle se retrouvait avec d'autres voisins, d'autres familles une fois par semaine pour faire les poubelles ensemble. Sophie, qui a un job, hein, pourtant.
Oui, oui, qui est une auditrice fidèle d'RMC, qui est aide-soignante, Sophie, et qui racontait son témoignage à 7h40 tout à l'heure. Ça a suscité pas mal de réactions chez vous, notamment Philippe qui nous dit simplement que le témoignage de Sophie l'a bouleversé. Christophe écrit: la France d'aujourd'hui, on mange sur les poubelles. Arrêtez d'inviter des politiques. C'est plus de Sophie qu'on veut entendre dans les messages. La question du pouvoir d'achat, ça devient compliqué. Je suis fonctionnaire, nous dit cet auditeur. Mon épouse est soignante avec 3 enfants. Revenu d'environ 4000 euros par mois à 2. Pas d'aide, rien du tout. Ça devient dur. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai Cécile qui nous dit: en ce qui me concerne, je n'en suis plus à me serrer la ceinture. Je suis déjà au dernier trou de la ceinture. C'est bien triste et bien difficile en ce moment. Voilà ce que dit Cécile sur le WhatsApp RMC.
C'était vos messages, vous n'hésitez pas, vous continuez à nous écrire et à nous appeler au 3216. Dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Ne manquez pas bien sûr à 8h30 le face-à-face, Jean-Yves Le Drian. Et juste après, il y aura Face à Cantelou, Nicolas Cantelou qui est en direct avec nous tous les jours à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et tous les jours de manche.
8h15, Arnaud Demanche est avec nous sur RMC. Salut Arnaud.
Bonjour Apolline. Ce petit salut était très familier. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est parce qu'on est une radio de potes, on est une radio Coupe du Monde, on est la radio du sport. Bienvenue sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Allez, pan dans ta gueule, France Inter. Eux aussi, ils vont la couvrir, la Coupe du Monde, mais à leur façon, quoi. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ce match Azerbaïdjan-Géorgie, moi je conseille de le regarder en version non sous-titrée. Oui. Déjà, en noir et blanc, plus de films. On voit bien la métaphore d'un affrontement géopolitique beaucoup plus ancien. N'est-ce pas, Dominique Seux ? Merci, Dominique Seux. Et c'est très intéressant. Parce que le ballon représente peut-être la terre, finalement, martelé par les coups de pied de l'homme propriétaire exploitant. Qu'en pensez-vous, Dominique Seux ? Voilà. Je sais pas. J'imagine que c'est comme ça. J'écoute pas Dominique Seux. Je fais preuve de créativité. Et donc, au sujet du foot. Un peu d'absurde. Allez, on est là pour rigoler quand même. C'est la fin de l'année, on débranche tout. Au sujet du foot, le documentaire sur le bus des Bleus et l'affaire Nainsna cartonne sur Netflix. C'est l'histoire de bus la plus sordide depuis Émile Louis. Sauf que, à Nainsna, c'était les 22 handicapés qui avaient pris le chauffeur en otage. Souvenez-vous. Alors, la grève des joueurs, c'est considéré comme une honte nationale, alors que ça ne devrait pas, Pauline. Qu'est-ce qui représente le mieux les Français? Une grève, des résultats nuls, un chef largué. Je me suis jamais senti aussi français. Tellement nous, quoi. Et Raymond Domenech a publié un communiqué pour exprimer sa colère. Ouais. Selon lui, ce doc est totalement à charge. Et alors là, attention. Parce qu'à chaque fois que Raymond Domenech est dans le dur, il demande Estelle Denis en mariage. Tout à l'heure, faudra écouter Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi.
Et on a Raymond de Paris au 32-16. Salut Estelle, je vais te dire, j'adore ton émission. Raymond, non, s'il te plaît. Estelle, tu veux m'épouser? Raymond, on n'est plus ensemble depuis 10 ans. Oh, bon, ok. T'as pas le 06 d'Apolline de Malherbe, des fois? Vous avez une touche? Vous avez une touche,
Apolline? Non, je n'y attendais pas. Arnaud, il y a une nouvelle candidature à la présidentielle. Benjamin, Lucas, lundi de Génération S.
Oui, c'est l'avènement politique de la semaine, Apolline. On peut parler quand même.
Oui,
c'est vraiment l'effet tadam, quoi.
Ouais,
alors, il a un handicap, alors... Benjamin, Lucas, lundi. Qui va voter pour un type qui s'appelle Lundi? Personne aime le Lundi.
C'est vrai.
Bah oui.
C'est son seul handicap d'ailleurs.
C'est son seul handicap.
Dans la course
à la notoriété, c'est là.
Ouais,
mais c'est le nom qui va pas.
Là.
Alors, Génération.S, c'est pas le parti de Patrick Bosso. Hein.
De stress, il y a point S.
Non, c'est pas un parti qui veut des pneus pour tous les jeunes. Génération.S, ce serait un peu limité comme programme politique. Non, Génération.S, c'est la formation qui avait été lancée par Benoît Hamon en 2017. Souvenez-vous, parce que personne s'en souvenait. Je suis sûr que Benjamin Lucas lundi, c'est juste un gars qui a retrouvé ce parti en faisant un vide-grenier. Qui a dit, tiens, c'est quoi ce truc? Un parti politique? Ah ok, bon. Et vous me le faites à combien? Je vous propose 7 euros. Ça vous va 7 euros?
Non, 10 euros et je vous offre 3 CD de Patrick Bruel avec.
Non.
Bon, et si je rajoute un livre de Nicolas Dupont-Aignan?
Mais non plus, toujours pas. Et maintenant qu'il a un parti, il s'est dit, allez, pourquoi pas me présenter?
Mais
je suis pas plus nul qu'un autre. Et là, je sais ce que vous dites. La vache, il imite super bien Benjamin Lucas lundi. C'est vrai. Je l'ai énormément bossé.
Ah, la vache.
Mais parce que je pense que ça va devenir un personnage phare de la politique française. Est-ce qu'il est populaire, Benjamin Lucas lundi? Eh ben, on va écouter ses partisans.
Le mardi.
Vous vous souvenez de qui c'était?
J'ai oublié.
Blind test. Eduardo.
On s'en souviendra en tout cas de Benjamin Lucas lundi. Allez, Sébastien Lecornu tiendra une conférence aujourd'hui pour annoncer les nouvelles aides sur les gros rouleurs.
Désolé, les gros rouleurs, c'est pas ceux-là.
Non,
c'est ceux de la route. Alors l'essence, c'est très compliqué là. Moi, j'ai essayé de faire le plein à côté de chez moi avant-hier. Les pompes sont vides. Vous vous rendez compte, si Marty McFly et le Doc débarquent en septembre 2026 à bord de leur voiture à voyager dans le temps, ils vont galérer.
Marty, le réservoir de la DeLorean est quasiment à sec. Il faut aller faire le plein.
Mais Doc, on peut pas, on est en septembre 2026. L'essence est à 73,50 euros le litre.
Mais Marty, nous n'avons pas cet argent. Nous allons devoir rester bloqués en 2026.
C'est pas grave, Doc.
Pas grave.
C'est Gabriel.
Marty, tu tiens vraiment à vivre encore une année de plus sous la présidence Macron?
Et bien justement, puisqu'on parle de moi, bonjour. Je voulais voir avec vous, est-ce que c'est possible de vous l'emprunter, votre bagnole? J'aimerais revenir au matin où j'ai annoncé la dissolution et vous avez voté comme des cons.
Nom de Zeus! Président Macron, hélas, non! Ce n'est pas possible!
Bon, d'accord. Est-ce qu'au moins, je peux revenir au matin où Brigitte a découvert mes SMS à Golshifteh Farhani, l'actrice iranienne, parce que ça m'arrange pas du tout, cette histoire.
Non plus, je suis désolé.
Bah, décidément, c'est vraiment pas de bol. Allez, à demain
j'adore,
matin.
J'adore, merci. Je vous aime, Arnaud. Il est 8h20 et c'est l'heure de faire gagner Julien. Tiens, bonjour Julien.
Bonjour Apolline.
Julien, quel plaisir, parce que c'est le jeu, vous le savez, vous avez été sélectionné au 7-32-16, vous êtes d'ores et déjà gagnant et j'ai devant moi ce tableau avec la sélection des Bleus. Vous le savez, derrière chaque joueur, il y a un cadeau, c'est mon moment un peu roue de la fortune. Alors dites-moi, vous choisissez qui?
Alors j'ai choisi le numéro 16, Mike Maignan.
Ouais.
Mike Maignan, on y va.
Allez, le gardien des Bleus.
Allez.
Moi, j'y crois.
Tu crois?
Ouais.
Mais dis donc, c'est le pack high-tech.
Waouh.
Bravo Julien, attention, vous êtes prêts? Vous êtes assis là?
Je suis prêt.
Alors, Julien, vous avez gagné un vidéoprojecteur Samsung, un écran gonflable extérieur pour regarder dans le jardin. Génial. Mais oui, c'est génial.
C'est génial.
La barre de son, le casque TV sans fil, pour, si vous voulez le regarder, mais sans emmerder les voisins. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien?
Incroyable. Merci beaucoup. Bravo.
C'est cool. Julien, vous faites quoi dans la vie?
Je suis chauffeur de taxi et là j'ai un ami qui fait de l'import-export qui se lance aujourd'hui là-dedans.
Il va franchement pouvoir passer aussi des bonnes soirées avec vous pour suivre la Coupe du Monde. On est très très heureux pour vous. Félicitations, merci. L'écran gonflable, ça plaît beaucoup à Mathieu, il peut s'incruster dans votre jardin, je vous le préviens. Julien, Aix-en-Provence, félicitations à vous, il est 8h22. On relance le jeu, c'est alors parti, nous, parce que c'est l'heure d'envoyer liste. J'ai plus envie de lâcher mon micro-main.
C'est bien.
Donc on envoie liste au 7-32-16 et c'est reparti. Le prochain gagnant donc de la liste des 26, et vous l'avez vu avec Julien, c'est des cadeaux exceptionnels. Il est 8h22, sans transition, dans un instant c'est le face-à-face. Mon invité c'est Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense et aujourd'hui représentant pour le Liban, Donald Trump, qui cette nuit dit qu'il pourrait y avoir un accord, mais je vous avoue qu'on a un peu du mal à suivre et on a besoin de Jean-Yves Le Drian. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Deux nouvelles aides carburant attendues. Sébastien Lecornu doit les annoncer à 17h face à la presse. D'ores et déjà, on sait que ces aides ne devraient pas être généralisées à toute la population. La décision d'annuler ou pas des concerts appartient à Patrick Bruel. Déclaration ce matin de la ministre chargée de l'égalité, Aurore Berger. Hier, des maires de grandes villes ont appelé l'artiste à reporter ses représentations de lui-même face aux accusations de viol. Le sport et le foot, un premier champion d'Europe sacré. Hier soir, les Anglais d'Aston Villa ont remporté la finale de l'Europa League. Et puis la météo, ça va être rapide. Du soleil pour tout le monde aujourd'hui. Et côté température, de 23 degrés à Lille jusqu'à 31 à Toulouse, 25 à Paris et 29 à La Rochelle ou encore 27 à Lyon et Marseille.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité c'est Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, enfin ancien ministre de la Défense, désormais envoyé spécial pour le Liban. Y a-t-il une chance d'un accord de paix, à la fois du côté États-Unis, Iran, mais aussi Israël, Liban? Réponse dans un instant avec Jean-Yves Le Drian.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr à RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de la Défense, évidemment, et ancien ministre des Affaires étrangères. Désormais, vous êtes l'envoyé personnel du président pour le Liban. De très nombreuses questions pour essayer de comprendre avec vous à quel moment de bascule on est. Conférence de presse de Sébastien Lecornu cet après-midi sur la question des conséquences de la guerre. Mais il le dit, il faut s'attendre à ce que ça dure évidemment sur les conséquences ici, mais ça veut dire aussi à ce que ça dure là-bas. Les frappes pourraient reprendre à tout moment, puisque Donald Trump dit qu'on est, je cite, sur un fil parce que si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite, nous sommes tout prêts à agir, il faut obtenir les bonnes réponses, elles devront être entièrement 100% satisfaisantes, voilà ce que dit encore cette nuit le président Trump. Vous y comprenez quelque chose?
Mais ça, c'est des gages donnés à monsieur Netanyahou, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé depuis quelques jours, c'est qu'on a quitté le surplace. Il y avait une forme de surplace depuis plusieurs semaines, depuis les deux blocus mis en place, mis en œuvre, parce que chacune des parties était pressée de sortir, pour des raisons différentes. Les États-Unis, parce que la cote de popularité de président Trump est en très sérieuse baisse, parce que les Américains ne souhaitent pas que les opérations militaires se poursuivent, parce qu'il y a de l'inflation qui arrive, parce qu'il y a les midterms qui arrivent, et puis les Iraniens, parce que malgré l'oppression, les difficultés allaient devenir beaucoup plus grandes de tenir la population avec les conséquences qu'avait le blocus sur ne serait-ce que les services minimums et l'alimentation. Donc chacun avait envie d'en sortir, mais personne ne le disait. Mmh. On était dans une espèce de bluff ou de partie de poker. C'est celui qui lâchera le premier. Et là, on a quitté le surplace parce que on a vu M. Vance prendre des positions d'ouverture pour une négociation. C'était pas arrivé depuis Islamabad, depuis les négociations d'Islamabad. C'est lui qui avait mené ces négociations, qui avait failli aboutir quand même. Et on a vu du côté iranien la montée en puissance du président Pezeshkian, qui jusqu'à présent était très discret. Et là, il fait des ouvertures.
Et qui pourrait devenir un personnage clé de cette
Il y a des ouvertures qui ont eu lieu, et donc on a quitté le surplace et on commence à se parler, ce qui ne fait évidemment pas plaisir à M. Netanyahou, qui est fou furieux. Et donc, ce que vous évoquez tout à l'heure sur les réactions de Trump cette nuit, c'est aussi une forme de couverture qu'il se donne à l'égard de Netanyahou, parce que il y a cette lettre d'intention qui est été produite, une négociation, une médiation très forte qui a été menée, qui est toujours menée par les Pakistanais, mais aussi par d'autres acteurs de la région, les Saoudiens, le Qatar, le Sultanat d'Oman, pour pousser vers une négociation avec une lettre d'intention dont on a quelques échos, parce que personne n'a vu le texte réellement, mais qui montre qu'il y a des signes d'ouverture et qu'il y a des deux côtés des volontés. Alors, est-ce qu'elles seront majoritaires? Je ne sais pas. Pour permettre d'avoir non seulement un cessez-le-feu, il existe, non seulement l'ouverture du détroit, mais aussi un processus permettant de sortir
de la question. Et de pouvoir aller même vers quelque chose de l'ordre de la paix. Jean-Yves Le Drian, on va revenir évidemment sur la question de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il acceptera en quelque sorte cet arrêt de la guerre et donc de suivre Donald Trump éventuellement là-dessus? Mais d'abord sur les négociations, vous parliez de cette lettre d'intention. Il pourrait négocier sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on pourrait imaginer malgré tout qu'il se retrouve, Iran et États-Unis?
Il y a plusieurs questions qui sont posées. D'abord, il y a la question de l'ouverture du détroit. Est-ce qu'on admet, les deux parties admettent de retirer leur blocage et leur blocus pour faire en sorte qu'on revienne à la libre circulation?
Blocage
iranien, blocus américain, ouverture à la libre circulation historique. D'ailleurs, j'ai remarqué que la Chine avait souhaité que on revienne à la libre circulation lors de la venue du président Trump à Pékin il y a quelques
jours. Ça veut dire sans péage? Parce qu'on rappelle quand même que la nuit dernière, un bateau sud-coréen est en effet passé avec à son bord une très grosse cargaison de pétrole issu du Koweït. Oui. Il est passé, mais il a payé.
Oui.
Il a payé $1 par baril.
Mais le principe de fond, c'est de revenir à la libre circulation dans le Golfe. C'est la volonté de l'ensemble des acteurs internationaux, y compris les grandes puissances.
Donc ça, le détroit,
ça fait partie des discussions, mais aussi la question du nucléaire, parce que le principe de base de l'intervention américaine, c'était d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut contrôler. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut limiter le nombre de centrifugeuses. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut régler la question des 440 kilos d'uranium enrichi qui sont aujourd'hui stockés on ne sait pas où. Il y a toutes ces questions-là qui sont posées. La discussion nécessite du temps, c'est très technique. Moi, j'ai négocié, il fut un temps avec le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui est très compétent, et évidemment, il faut du temps de négociation, mais il faut des signes avant. Et les signes, ils sont en particulier, oui, on renonce aux 440 kilos d'uranium enrichi. Oui, on rentre dans une négociation pour limiter
l'enrichissement. Ça ne veut pas dire qu'on les... parce que
ça veut dire qu'on dilue, ça veut dire qu'on transfère, ça veut dire qu'on les identifie et on les sort, d'une manière ou d'une autre. Et on fait contrôler. et on fait contrôler. Et ce que j'observe,
ça veut dire accepter des contrôleurs par principe. Ça veut dire accepter qu'éventuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse à tout moment venir visiter les usines sur le sol iranien.
Ça veut dire que l'agence pour l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, reprend son rôle qu'elle avait auparavant de contrôle des engagements iraniens sur la question du nucléaire. Si c'est ça qu'il y a dans la lettre d'intention, et si c'est validé par le président Trump, et si c'est validé par les Iraniens, ça c'est une grande avancée.
Je remarque que vous ne mentionnez pas le régime. Ça n'existe plus. Ça n'est même plus une question. Le changement de régime, le renversement de ce régime.
Parce qu'il y a de l'oppression. Parce que le pouvoir iranien fonctionne avec les gardiens de la révolution, avec des Basidji qui contrôlent l'ensemble du pays, et parce que le peuple iranien ne se révolte pas là maintenant, d'abord sous les bombes et en raison de l'oppression, mais ça viendra un jour. Mais ça ne vient pas dans ces conditions-là. On n'a jamais vu de changement de régime par des bombardements
aériens. Ça viendra un jour, c'est-à-dire que vous dites ce matin, Jean-Yves Le Drian, que vous êtes convaincu qu'un jour ce régime basculera et que le peuple sera libéré.
Je pense, j'en suis convaincu, dans l'histoire. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que ceux qui rêvaient, comme ça a été, semble-t-il, le cas des services de renseignement israéliens, que le peuple allait se soulever à partir du moment où plusieurs des responsables iraniens avaient été éliminés, se trompent. C'est pas comme ça que ça se passe.
Israël, pendant ce temps-là, l'ambassadeur israélien est convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. On a vu ces images. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien, monsieur Ben-Gvir, avec des militants de cette flottille pro-palestinienne qui avait été arrêtée. On les voit menottés, à genoux, plaqué, la tête baissée sur le sol, dans une position clairement d'humiliation. Il y a 37 Français parmi ces militants. Voici la réaction du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Les agissements de monsieur Ben-Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, c'est inadmissible. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation, obtenir des explications. La sécurité de nos compatriotes est une priorité constante, quoi qu'on pense de cette flottille, et nous avons indiqué à plusieurs reprises notre désapprobation de cette démarche. Nos compatriotes qui y participent doivent être traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais. Avoir convoqué l'ambassadeur israélien, est-ce que ça suffit ?
Cette mise en scène est honteuse. Ça ne m'étonne pas de la part de Ben-Gvir, qui était un habitué de l'outrance. Et ça me permet de dire que certains des ennemis, des meilleurs ennemis, des plus forts ennemis d'Israël sont en Israël. Pour l'image de marque d'Israël, c'est catastrophique.
Et ce Ben-Gvir,
il est membre du gouvernement. Donc il peut avoir aussi des sanctions de la part de son gouvernement. Je vois que le Premier ministre Netanyahou a fait part de son indignation aussi. Bon, il faut passer aux actes.
Benjamin Netanyahou lui-même se dit indigné les images de son ministre de la Sécurité intérieure.
Et par ailleurs, et donc la réprobation internationale est unanime, ça veut dire que les Israéliens doivent s'interroger sur la qualité et la volonté et les engagements de certains de ces ministres, parce que Monsieur Ben-Gvir, c'est pas...
Il doit sortir du gouvernement, c'est-à-dire...
Un spécialiste du sujet, puisque à l'égard de la Cisjordanie, c'est lui qui incite à la colonisation accentuée, c'est lui qui incite à la répression. Et puis par ailleurs, cette affaire nous permet de dire que la question de Gaza n'est pas réglée. Alors moi, je pense que le système des flottilles n'est pas sans doute le meilleur système opératoire pour protester. N'empêche que, aujourd'hui, la situation en Gaza dont on ne parle plus, elle est toujours impossible. C'est un trou noir, comme disent certains. La population, les 2 millions de Gazaouis qui sont là, sont dans des situations de dérive sanitaire et de dérive humanitaire catastrophique. La presse n'est toujours pas admise à rentrer à Gaza. Donc la question de Gaza et la question du Hamas va revenir. Parce que la paix par la force, pour reprendre le terme de M. Netanyahou, ça marche pas.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche nulle part. On le voit pour la question de l'Iran, on le voit pour la question de Gaza. Et la question de Gaza reste au cœur des difficultés à venir, malheureusement.
Je vous repose la question, est-ce que l'ambassadeur israélien doit même... ça doit aller plus loin, c'est-à-dire pas seulement le convoquer, mais peut-être le
gouvernement français doit prendre les initiatives qui conviennent. Mais je pense que le gouvernement français et le président de la République ont pris à l'égard de la question palestinienne des initiatives très fortes. Je vous rappelle la reconnaissance de l'État palestinien et la mobilisation des Nations Unies autour de cette question à l'automne dernier.
Liban et Israël, officiellement la trêve est prolongée de 45 jours, mais là encore, il y a des frappes régulières d'Israël sur le site du Liban, du Hezbollah vis-à-vis du nord d'Israël. Est-ce qu'on peut quand même parler de trêve ?
Il y a au moins une perspective de 45 jours où on va continuer à discuter. Moi, je souhaite que la trêve soit respectée, et évidemment, et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité. Il est en situation de péril sur son unité parce que il y a les communautés libanaises sont divisées et à l'égard du Hezbollah et à l'égard d'Israël. Il y a des risques de conflictualité. Le Liban est menacé dans son intégrité parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par Israël et une autre partie qui est agitée et animée par le Hezbollah qui sert les intérêts iraniens, donc d'une puissance étrangère. Donc il y a un risque sur l'unité, un risque sur l'intégrité, et il y a là, aujourd'hui au Liban, des dirigeants de haute qualité qui sont courageux et qui, le président Aoun ou le premier ministre Nawaz Salam, prennent des initiatives pour essayer de sortir de cet étau et d'aboutir à un processus qui redonnera à l'État libanais les moyens d'agir et d'exister. C'est ça le sujet. Il est très lourd, il est très difficile, et qu'il y ait une période de 45 jours pour essayer de s'en sortir, c'est déjà le minimum.
Il y a eu à nouveau une rencontre entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban. À un temps fut espéré une rencontre entre les dirigeants, c'est en tout cas ce qu'imaginait Donald Trump. Est-ce que ce dialogue, en tout cas, pour vous, est fécond, et qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Oui, même si Israël a refusé que la France fasse partie de cette discussion, alors que les Libanais le demandaient, le fait que les États-Unis estiment qu'il y a un vrai sujet, une vraie négociation à mener, c'est plutôt un point positif. Le fait que le président Aoun lui-même ait pris l'initiative de rencontrer Israël directement, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est une initiative historique. Il a eu l'audace de le faire, le courage de le faire. C'est aussi un point très positif de là pour l'avenir. Maintenant, il faut essayer de mettre tout ça en œuvre et faire en sorte que l'État libanais soit rétabli dans ses fondamentaux. Et dans les fondamentaux de l'État libanais, il y a la maîtrise des armes, le monopole des armes. Un État qui n'a pas le monopole des armes, c'est un État qui n'existe pas.
Ce que vous voulez dire, c'est que le fait que le Hezbollah soit aussi lourdement armée, et on le voit en réalité tous les jours, c'est une concurrence immédiate avec l'armée, vous savez, régulière libanaise.
Oui, d'une certaine manière. Et lorsque le Hezbollah a commencé à tirer le 2 mars dernier sur Israël, parce que c'est le Hezbollah qui a commencé l'initiative, le journal libanais bien connu, L'Orient Le Jour, avait titré « Le Hezbollah suicide le Liban ». Je trouve que la formule était très juste. C'est-à-dire le Hezbollah a choisi l'Iran plutôt que le Liban, en se référant par ailleurs au fait qu'il était l'axe de la résistance. Non, il est l'envoyé de l'Iran sur la frontière israélienne, et de cette manière-là, il a été à l'initiative de la guerre qui existe aujourd'hui. Bon, il n'a pas choisi entre la paix et la guerre, il a choisi l'Iran contre le Liban. Aujourd'hui, il faut rétablir l'État libanais, c'est ce que font, je crois, les dirigeants libanais avec beaucoup de courage.
Jean-Yves Le Drian, vous le disiez, est-ce que quand Donald Trump s'exprime cette nuit, il y a un message qu'il envoie aussi à Benjamin Netanyahou, sous-entendu, quand même, s'il le faut, je reprendrai cette guerre. Est-ce que si, effectivement, il y a des négociations qui aboutissent avec le début d'une réflexion, compris sur le nucléaire, est-ce que Benjamin Netanyahou pourrait, en quelque sorte, se dissocier des États-Unis et poursuivre cette guerre seul ?
Le risque est celui-là. Les Iraniens et les Israéliens n'ont pas intérêt à lâcher leurs propres alliés là et leur propre soutien. Donc ce risque est là. Mais l'initiative de négociation sur 45 jours, j'espère, permettra une voie de sortie qui est difficile, mais pour laquelle la France apporte tout son concours.
Et je précise qu'on l'apprend à l'instant, le chef de l'armée pakistanaise dit être attendu à Téhéran aujourd'hui. C'est donc aussi une des manières de poursuivre ces discussions.
C'est ce que je vous disais en commençant, on a quitté le surplace, mais j'ai une constatation un peu bizarre à la fin de ce processus, quand je regarde ce processus. Finalement, on est en train de revenir à ce qu'on avait conclu en 2015.
C'est-à-dire, moment-là, les accords sur le nucléaire.
Le JCPOA qui empêchait l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et qui mettait en place des contrôles pour éviter cette issue.
C'était l'accord de Vienne.
C'était l'accord de Vienne, c'est l'accord qui a duré jusqu'en 2018, date à laquelle le même président Trump s'est retiré, et là, il est en train de revenir sur ses engagements.
Un mot encore sur le rôle de la France et sur le rôle de l'OTAN. On a l'impression que l'OTAN, dont on parlait il y a encore quelques années comme étant en état de mort cérébrale, c'est l'expression d'Emmanuel Macron, pourrait être peut-être la manière d'accompagner ce leadership français et britannique pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'OTAN a encore de l'avenir?
Ben on le verra lors du sommet de l'OTAN qui va se tenir en Turquie au mois de juillet. Celui qui remet en cause aujourd'hui l'OTAN et sa mission, c'est le président Trump. Le fait que 32 pays soient unis dans une alliance ne dépend pas uniquement du président Trump. C'est-à-dire que les Européens ont vocation et ont déclaré vouloir renforcer le pilier européen de l'OTAN pour que dans cette instance et dans cet outil d'organisation, il y ait une force européenne qui soit à même d'agir de manière autonome à l'intérieur de l'OTAN. Je pense que c'est ça la solution. Mais pour revenir à l'initiative concernant le détroit d'Ormuz et le golfe arabo-persique, le fait qu'il y ait une forme de coalition de missions communes qui a été décidée à l'initiative du président Macron entre les Britanniques et les Français pour assurer la sécurité de la navigation dans le détroit et dans le golfe lorsqu'il y aura un processus de désescalade, c'est une très bonne initiative et l'Europe est dans son rôle.
Donald Trump qui a dit d'ailleurs qu'il serait en France au moment du sommet du G7 oui. En juillet, c'est bien ça?
C'est normal.
Il faut.
C'est le G7, c'est pour que les dirigeants de ces sept pays se retrouvent et évaluent ensemble leurs propres positions et leurs propres orientations. Ce serait inacceptable que le président Trump n'y soit pas, ou alors à ce moment-là, ce serait la confirmation d'un schisme transatlantique.
Une question encore sur les jeux d'alliance et la manière dont ça se répartit désormais autour des pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on le sent bien, les Émirats Arabes Unis ont demandé désormais quasi officiellement leur aide dans un accord avec Israël. L'Arabie Saoudite, qui pourtant était dans les accords d'Abraham, n'est plus forcément dans cette logique-là. Où est-ce qu'on en est?
Non, l'Arabie Saoudite n'était pas dans les accords d'Abraham.
Était dans cette discussion-là. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont aussi les deux concurrents dans cette influence.
Il y a des orientations différentes qui sont prises par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sur un certain nombre de points. Ils continuent à se parler et à être solidaires face aux attaques dont sont victimes les Émirats Arabes Unis, y compris les attaques iraniennes.
Mais est-ce que c'est vraiment des acteurs désormais aussi de ce conflit?
Je considère que l'Arabie Saoudite, dans les discussions qui nous permettent de quitter le surplace, a un rôle tout à fait essentiel dans les concertations avec la Turquie, avec l'Égypte, avec le Pakistan, pour aboutir à une solution négociée.
On quitte le surplace. Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères et envoyé personnel du président pour le Liban. Il est 8h46 sur RMC BFM. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Yves Le Drian était mon invité dans le face-à-face. François Hollande, vous vouliez réagir? Bonjour.
Oui. Bonjour à tous. Pardonnez-moi, Monsieur Belherbe, je vais être assez franc, assez direct, mais j'ai trouvé votre interview formidable. Oui, d'habitude, parce que quand j'écoute Jean-Yves Le Drian, j'ai tendance à piquer du nez aux deux tiers, voire aux quatre quarts, aux trois quarts, c'est le petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai une devinette. Quand on a un quatre quarts devant soi, et qu'on en mange cinq parts, qu'est-ce qui reste? Moi, j'ai essayé, les miettes. Je m'égare. Mon Le Drian a été fantastique. Oui. Il était au-dessus de la mêlée, aérien, félin, comme moi.
Donc, vous voulez être bon sur l'Iran, sur Donald Trump.
On s'en fout. Non, Jean-Yves Le Drian a été juste excellent parce que lui, il n'a pas annoncé sa candidature en 2027. Mais à gauche en ce moment, c'est très là. Je crois que même c'est unique. C'est le seul.
C'est le seul, c'est vrai. Alors, Jean-Yves Le Drian est donc l'envoyé spécial quand même d'Emmanuel Macron maintenant au Liban.
Oui. Il a le profil idéal, disons-le. Vous savez, au Moyen-Orient, personne ne nous écoute. Donc c'est très judicieux d'avoir mis quelqu'un comme Jean-Yves, que ça ne dérange pas d'être inactif. Mais ça a le mérite d'occuper sa retraite. Mais vous le verriez dans ce bureau, il fait des sudoku, il colorie des cartes, il regarde Michel Drucker avec son petit plaid sur les genoux. De temps en temps, Macron vient aux nouvelles pour pouvoir s'assurer qu'il est vivant déjà.
Mais
c'est encore important de s'occuper de nos anciens. Hein. Ouais. Voyez là, vous lui avez fait la conversation pendant 20 minutes. Il était tout content.
Merci François Hollande. Dominique de Villepin, tiens, vous souhaitiez aussi réagir.
Oui, bonjour. Après Jean-Yves Le Drian, il était temps de laisser la place à Dominique Le Brillant. Écoutez, la façon dont Jean-Yves Le Drian s'occupe de sa mission au Liban, je le dis haut et fort, est une véritable atteinte au fonctionnement légitime d'une démocratie.
Ah bon, mais pourquoi ?
Bah écoutez, il donne des conseils à tout le monde, mais il les facture pas. Hein,
c'est vrai, c'est de la concurrence déloyale.
Il veut plomber mon business ou quoi? Il va faire chuter les prix, ce qu'on l'a.
Merci, monsieur Dulpin. Et sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, 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 bonjour Apolline. Oui. Dites donc, je vous ai vu, vous marchez sur mes plates-bandes, vous.
Qu'est-ce que
tu fais encore? Mais si, en invitant Jean-Yves Le Drian, vous aussi vous mettez à l'honneur des monuments historiques. Ben oui. Mais si, un ancien ministre qui se revendique encore macroniste alors que tout le monde quitte le navire. Mais c'est une pièce très rare, ça appartient à l'histoire désormais. Allez, oh, je suis taquin. C'est parti pour les titres. Canal+, lâche du lest face à la fronde du monde du cinéma. Du coup, tous les films où apparaissent des signataires de la tribune anti-Bolloré seront diffusés mais en crypté. Oui. Bon, mais du coup, ça change pas beaucoup. Allez, dans un rapport, l'ONU exige qu'Israël empêche un génocide à Gaza. Bah, dites donc, les gars de l'ONU, il était temps de vous réveiller. Hein. Vous allez voir que bientôt, les États-Unis vont demander. L'ONU va demander aux États-Unis d'arrêter d'exterminer les Indiens. Allez, à vous, Apolline.
Merci, Stéphane. Gérald Darmanin est avec nous. Monsieur le ministre, vous avez annoncé un projet de loi pour réduire les délais de jugement.
Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Pardon, mais vous n'avez pas prononcé mon nom. Mon nom, c'est Gérald Darmanin.
Darmanin. Oui.
Darmanin, D-A-B-A-D-I-N.
Ah oui, d'accord.
Mais ce n'est pas grave, madame Malherbe. Détendez-vous, ça va bien se passer. Vous l'avez dit, juste titre, la justice est engorgée. Pourquoi ? Parce que les greffiers sont en burn-out, pardonnez-moi, à cause de M. Bruel. Parce que les magistrats travaillent 65 heures supplémentaires par semaine. L'avocat de M. Bruel, qui est d'ailleurs aussi l'avocat de Nicolas Sarkozy, me disait, à cause des deux, de Sarkozy et Bruel, ça fait 8 mois que j'ai pas vu mes gosses.
Maud Bréjon a dit qu'à titre personnel, elle n'irait pas avoir ses conseils.
Oui, c'est ça normal, madame de Malherbe. Maud Bréjon, vous savez, est une femme de 35 ans. Et qui s'appelle Maud, elle s'appelle pas Sylvie ou Nathalie. Mmh. Hein, donc elle ne va pas au concert de Patrick Bruel, bien sûr. Je ne veux pas dire que seules les Sylvie ou les Nathalie vont au concert de M. Bruel. Il y a aussi les Séverides, les Chantal, les Marie-Paul, les Véronique, les Patricia. Mais... c'est vrai, on est pile dans la cible. On est pile, oui. Mais qu'elles se rassurent, lors des concerts, elles seront protégées. M. Bruel ne les approchera pas, je m'y engage. Ouvrons les yeux. Aujourd'hui, elles sont beaucoup trop âgées pour risquer quoi que ce soit.
Bon, allez, merci.
Voyez, madame, ça s'est bien passé, madame.
C'est bon. Allez, ça suffit. Pause. Et puis, pour faire un point sur l'affaire Bruel, on retrouve tout de suite. Le général Pélisse-Rondy. Bah, général, qu'est-ce que vous faites là? Là, on va parler de l'affaire Bruel. Pourquoi
que je suis là? C'est la vraie question. C'est la question que je me pose de très souvent. Mais je suis là parce que je suis polyvalent.
Ah.
Et oui. Donc, je vais vous parler de l'affaire Bruel.
Ah oui.
Oui. Oui, parce que c'est une bataille judiciaire. Et moi, des batailles, ça me connaît.
C'est vrai.
Alors, puis c'est surtout parce que moi, j'ai toujours un coup d'avance. Parce que les guerres, ça peut s'arrêter à tout moment. On le sait. Alors que les plaintes de Patrick Bruel, il en trompe tous les jours.
Oui.
C'est ça l'avenir. Hein, il en trompe tous les jours des nouvelles.
Bon, alors, puisque vous êtes là, allons-y. La procureure de Paris a annoncé que toutes les plaintes contre le chanteur seront désormais regroupées au parquet de Nanterre.
Oui. Alors, justement, le parquet de Nanterre. Grand 1, le parquet de Nanterre. Ah. Oui, parce que je suis pédagogue. C'est une très mauvaise nouvelle pour les plaignantes, le parquet de Nanterre. Parce qu'on connaît la réputation du parquet de Nanterre. C'est qu'il enterre les plaintes.
Ah, il enterre.
Oui, et que toutes les plaintes, elles finissent enterrées. Oui. Grand 2, le théâtre d'opération. Oui, parce que M. Bruel joue au théâtre. Donc, le théâtre d'opération, ça marche bien. Alors, je vous ai préparé une carte et je vais vous montrer où les lieux que ça s'est passé grâce à ma baguette, télescopique que je suis en train d'ouvrir.
Non, vous n'y arrivez pas. Non, je ne peux pas ouvrir. Pourquoi ?
Mais non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas parler de l'affaire Bruel avec la baguette ouverte.
Non.
C'est un sujet. Ça ne se fait pas. Non, c'est un sujet trop d'exposition. Alors,
Oui, ce serait la première fois que je parle là-bas, c'est ouvert. C'est pas possible. Non. Alors, c'est un sujet trop d'exposition. Oui. Alors, je vais vous parler d'autre chose que je pourrais vous parler, parce que je suis polyvalent. Oui, je vais vous parler du virus d'Ebola. Je suis polyvalent. Alors, il faut savoir que c'est un virus très dangereux. Il faut prévenir vos téléspectateurs qui s'attrapent sur les canapés. Oui, parce que poltronier sofa, authentica qualita, Ebola. Oui, mais c'est. Alors, comment vous expliquer? Oui, ça vient de très très loin. C'est bossé, hein.
C'est
comme si vous. Pourquoi on l'attrape? C'est comme si vous étiez assis sur un canapé à côté de Patrick Bruel. Oh, bah ouais. C'est très dangereux. C'est comme Marshall et Truchot qui sont assis à côté l'un de l'autre depuis 20 ans, mais eux, au moins, ils sont consentants.
Voilà, bien sûr. Face à vous, que l'on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Alain est avec nous. Alain, quel est le programme?
Eh bien, dans les grandes gueules, on a un agriculteur, Didier Giraud, qui fulmine depuis hier parce que entendre Sandrine Rousseau dire que désormais dans les restaurants, elle aimerait bien voir écrit cadavre de vache plutôt qu'entrecôte. Eh bien, ça le rend fou furieux et ce sera dans les GG dans un instant avec vous au 32-16.